Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi Internet, bienvenue dans ce débrief légèrement tardif, désolé, on a eu une grosse semaine tous les deux, de Shogun, épisode 8, l'antépénultième chapitre
ça
de
sort
cette
les mots.
Aventure, antépénultième, avant-dernier, voilà, tout simplement. Et je suis, comme chaque semaine, en compagnie de ce cher Nodus. Bonjour Nodus.
J'ai mal fait les tests son, tu m'as pété les oreilles.
Est-ce que c'est mon volume qui est trop fort ou ton casque qui n'est pas bien réglé? We might never know.
Bonjour, bonjour. Alors je vous préviens, il fait un peu chaud parce qu'on enregistre. Je sais qu'on vous a beaucoup manqué.
Oui. On enregistre, j'ai eu des DM, j'ai eu des réclamations. Bonjour, quand sort le débrief Shogun? Bonjour, où est le podcast
aussi, mais même mes propres amis qui sont venus à la maison m'ont dit hey, il est où le podcast? Et j'étais là, hey, oh frérot.
Tes amis qui sont des personnes de goût, on les embrasse.
Et donc je vous préviens juste qu'il fait un petit peu chaud, donc il est possible que vous entendiez un ventilateur derrière moi.
Oui.
Puisque voilà, le ventilateur a été activé. Comment ça va, Mimi?
Écoute, comme à chaque fois que les beaux jours reviennent, j'ai une petite crève, donc je suis légèrement enrouée. À part ça, ça va, je suis ravie de te retrouver pour ce podcast.
Et moi aussi.
Et ravie car on a une grande annonce qu'on peut d'ores et déjà faire, qui est que le débrief du dernier épisode de Shogun, et donc de toute la saison,
mais non,
aura lieu en live sur ma chaîne Twitch.
Mais non.
En ta compagnie.
Mais non.
Et en la compagnie de cette délicieuse Marie Kigaï.
Mais non.
Créatrice de contenu, streameuse, productrice que nous aimons beaucoup, avec laquelle je co-anime déjà l'émission BFF sur sa chaîne.
C'est vrai.
Et qui s'est mise à Shogun sur nos conseils et qui ne regrette rien, qui est une fidèle auditrice du podcast. Je l'ai donc invitée à se joindre à nous pour ce débrief final de Shogun qui aura lieu, noté dans vos agendas, le 24 avril au soir à 20h sur ma chaîne Twitch MYMYHGL.
Attends, vas-y, je vais le noter aussi dans mon agenda.
Je t'ai envoyé une invite dans ton agenda, t'inquiète.
Je vais le noter.
Ah non, c'est Marie qui l'a fait, donc t'as pas d'invite.
Voilà, je vais le noter parce que sinon je serais pas là quoi.
Donc Valentin, qui rappelons-le est mon compagnon à la vie, m'a lancé un regard qui disait ouah, t'as la date? J'avais pas la date. On a la date. C'est donc le 24 avril au soir. En attendant, on va vous parler cette semaine de l'épisode 8 et la semaine prochaine en podcast bien sûr de l'épisode 9-1 tout simplement.
C'est vrai, 8-9-10, c'est voilà.
Ouais, c'est l'ordre quoi. Valentin Sebo, alias Nodus, peux-tu te représenter rapidement pour celles et ceux qui joignent l'aventure, qui montent à bord de l'Erasmus, pourquoi pas, pour cet épisode 8 et qui peut-être ne nous connaissent pas?
Valentin, de mon prénom, Nodus, de mon pseudo, journaliste, streamer à mes heures perdues, je travaille dans le jeu vidéo. Pas du tout dans le Japon, mais voilà, comme j'aime le dire à chaque fois, chaque épisode de ce podcast qui passe fait de moi un expert du Japon féodal, voilà, de plus en plus. Et là, je suis de plus en plus solide sur les appuis. et je suis content parce que cette semaine, j'ai réussi à boucler des trucs de taf. C'est aussi pour ça qu'on enregistre un peu plus tard. Le gros truc sur lequel je travaillais ces dernières semaines, j'ai enfin réussi à le boucler. Donc... j'ai passé ma journée d'hier à ne rien faire, à part jouer aux jeux vidéo en slip dans le bureau. Voilà.
Plaisir. Bien sûr, on vous le dira si jamais ce contenu sur lequel tu as généreusement travaillé est dispo avant la fin des débriefs de Shogun. On vous le dira, on vous l'annoncera et on vous mettra un lien dans la description.
J'en doute.
Moi, c'est Mimi Hegel. Je crée du contenu sur Internet de façon diverse et variée, donc je ne vais pas vous faire tout le topo, ça va être très long. Mais en ce moment, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous donne rendez-vous le 18 avril pour une masterclass autour de l'écriture. Alors, c'est un projet qui s'appelle Le Cas, que j'ai co-créé avec une super autrice du nom de Kalindi Rampfel, que vous connaissez peut-être du podcast 4 quarts d'heure, n'est-ce pas ? Sinon, allez écouter, c'est vraiment bien zozo. Avec Kalindi, on a créé Le Cas, qui à la base était un projet d'atelier d'écriture, et on l'a enrichi en y ajoutant deux volets, toujours autour de l'écriture et de la littérature, qui sont d'une part un book club. On va parler ce mois-ci de Sharp Objects sur ma peau de Gillian Flynn, l'autrice de Gone Girl. Ce sera en live sur ma chaîne Twitch aussi. Et l'autre pan du cas qu'on a créé, c'est les masterclass, où du coup, on invite une personnalité du monde de l'écriture ou de la littérature à donner un cours en visio aux personnes qui s'inscrivent sur une thématique précise. Et on est très fiers parce que pour la première, on reçoit Quentin Zution,
oh là là,
auteur de bande dessinée de grand talent, à qui on doit par exemple toucher en attendant... Non, Toutes les princesses meurent après minuit, Appelez-moi Nathan ou Chromatopsie, qui va venir nous parler d'autofiction, puisque c'est un auteur qui met beaucoup de lui dans ses œuvres. Et donc, c'est de ça qu'il a choisi de vous causer pendant bien 2 heures et un gros temps de questions-réponses. Donc si vous touchez un petit peu à l'écriture, à la création d'univers, au racontage d'histoires, finalement, ça peut être aussi des scénarios de la prochaine super série qui nous apprendra plein de choses sur une période donnée et un pays donné. Ne ratez pas la première masterclass, il y en aura d'autres qui suivent. Voilà, et sinon, si vous aimez m'écouter parler dans un micro, vous pouvez me retrouver tous les lundis dans le Fabien Mimi Show, en podcast et sur YouTube.
Fabien Mimi Show qui d'ailleurs, se tiendra en public.
Mais c'est très vrai.
En public, à un moment où moi je ne suis pas.
Dis pas ça, sinon les gens, tes fans, moi je veux qu'ils viennent à mon émission, pensant te croiser.
C'est bien à l'Apollo Théâtre.
À l'Apollo Théâtre, tout à fait. Paris, le 16 mai.
J'ai un seum, moi je suis en Pologne, je dois me barrer à fucking Varsovie, me peler le cul, et toi je pourrais même pas te voir.
Mais tu vas manger des pierogies. Ramène-moi des pierogies pour te faire pardonner de rater la première édition du Fab et Mimi Show sur scène. En effet, merci beaucoup à Acast et Amazon Music qui nous invitent dans le cadre de leur festival podcast en live. On y sera du coup à 20h pour un épisode un peu spécial du Fab et Mimi Show, où bien sûr vous êtes généreusement conviés. Je vous mets le lien dans la description. Il n'y a que 300 places, ça peut partir vite, voilà, sans vouloir me la raconter. N'hésitez donc pas à prendre la vôtre.
Donc voilà, allez-y à ma place. Moi, je ne peux pas y aller, mais je compte sur vous, évidemment, pour porter un « Je veux que quelqu'un porte un chapeau de mariachi ». Je veux vraiment que dans le public, vous soyez perturbés par juste un gars qui a un chapeau de 2 mètres de haut.
Ou le chapeau de Saeki, le demi-frère de Toranaga, le casque phallique. Là.
T'arrives à l'Apollo Théâtre avec un
tu
casque.
Tu passes pas la porte. Le truc qui fait 1,5 m.
En vrai,
je pense en Vigipirate ça marche pas, tu vois. Non, t'as même pas le droit d'amener une bouteille d'eau.
Je pense qu'il doit fouiller le chapeau, quoi.
C'est... Oui, c'est genre qu'est-ce qu'il y a dedans, monsieur, c'est pas possible. Valentin, avant qu'on commence à parler, Shogun épisode 8.
C'est pas souvent qu'elle me Valentin, donc sachez-le.
C'est vrai. Tu m'as dit que t'avais une reco.
Oui, tout à fait, j'ai une reco qui est liée à Shogun. Voilà, bon, si vous écoutez, si
après,
vous avez.
Sinon, si tu vends une bagnole, tu peux l'annoncer aussi.
Oh, je vends une Clio 2. Voilà, elle a 30 000 bornes. Il manque la portière gauche, mais bon, après, voilà, le contrôle technique est passé. N'hésitez pas, offre en DM. Non, plus sérieusement, j'imagine que si vous avez écouté 8 épisodes de ce podcast, c'est que quelque part, vous aimez Shogun.
Non, il y a vraiment des gens qui regardent pas et qui nous écoutent. C'est ma passion.
Je croyais que c'était un podcast sur The Bear, merde.
On en fera bien sûr en juin, The Bear saison 3 sur Disney+, let's go.
Donc j'imagine effectivement que vous aimez vous intéresser à Shogun et à tout ce qui entoure Shogun. Et moi j'ai découvert la semaine dernière que lorsque la série sort en fait sur la chaîne FX Networks sur YouTube, ils sortent une série qui s'appelle The Making of Shogun qui s'attarde sur différents points. C'est des petits épisodes de 5 à 10 minutes chacun. Et en fait moi j'ai découvert cette série de making of avec un épisode sur les costumes, et il y a le costumiste, on dit costumiste,
costumier,
putain j'avais une chance sur deux, le costumier
je suis fatiguée.
Le costumier de Shogun qui pour le coup n'est pas du tout quelqu'un de japonais, c'est un costumier américain je crois, qui du coup explique avec qui y travaillent, les différents corps de métier, comment ils s'inspirent des différentes époques du Japon, les, qu'est-ce que veulent dire les costumes en fonction des épisodes et tout. Il y a ça.
Je me souviens d'un plan où ils présentent, je crois, à Toranaga ou à Yabushige un genre de par-dessus en plume de paon, en lui expliquant, voilà, là, on a mis les plus jeunes plumes du cou en haut pour que ça fasse, pour que ça transforme finalement la personne qui
c'est
porte
incroyable.
En paon. Et
c'est
j'étais
incroyable.
Là, mais le, enfin, c'est toujours fascinant le niveau de craft, d'artisanat qui va dans des choses qu'on voit parfois deux secondes à l'image, tu vois, mais qui sont,
et ben
qui
là,
sont trop belles.
Là, il y a vraiment des. Il explique que parfois un costume peut prendre vraiment des dizaines d'heures, alors qu'on va le voir vraiment juste 5 minutes, notamment dans l'épisode, je sais plus, là, pardon, l'épisode 6 ou 7 dont on a parlé dernièrement, dans lequel ils vont dans le Yukaku, le quartier des plaisirs, dans le Willow of the, Ladies of the Willow.
Tout à fait, Ladies of the Willow World.
Il y a.
Il y a le fameux kimono rouge.
Le fameux kimono rouge avec des poissons dans le dos.
Yes.
Et il explique justement dans l'épisode de Making of Shogun sur YouTube pourquoi est-ce que les poissons ça a une signification. Pourquoi. Non, c'est des poissons ou des oiseaux. Putain. Bon, bref. C'est,
Regardez les vidéos pour le savoir.
Et il y a également. Donc voilà, donc il y a plein d'épisodes. Il y a celui sur les costumes, celui sur l'ambiance visuelle. Il y a également celui. Là, ils en ont sorti un tout récemment sur le théâtre. Et on aura l'occasion de parler de théâtre dans cet épisode là de podcast. Et donc, ils s'attardent sur voilà, comment ils ont recréé du théâtre traditionnel de l'ère Edo. Et il y a mon épisode bref de The Making of Shogun qui s'appelle Une journée avec Hiroyuki Sanada. Et qui n'a pas envie de passer une journée avec Hiroyuki Sanada?
Je veux passer ma vie avec Hiroyuki
Mais
Sanada.
J'ai trop envie. J'ai envie d'aller partout. J'ai envie d'aller à Disneyland avec lui. J'ai envie d'aller acheter à Leroy Merlin.
Acheter
genre
des clopes.
Ouais,
avec Hiroyuki
j'ai
Sanada.
Envie d'aller. Genre.
J'ai envie d'être coincé dans les bouchons avec Hiroyuki
Grave.
Sanada.
J'ai envie d'aller prendre de l'essence et il n'y a, a plus d'appareil à carte. Donc il faut sortir de la voiture et aller payer en liquide à la caisse avec Hiroyuki Sanada.
Qui, bien sûr, est l'interprète de Toranaga et un des producteurs exécutifs de Shogun, très impliqué, bien
oui,
sûr,
tout
dans
à
le
fait.
Développement de la série.
Donc,
si vous ne l'aviez pas, nous, on est un peu très fort en nom, on peut le dire.
Oui, oui, bah évidemment.
toi.
Mais donc, voilà, donc, c'est, voilà si jamais, blague à part, Shogun vous intéresse et que vous voulez pousser, j'ai envie de dire, le raisonnement, la découverte, etc., sachez que sur YouTube, vous tapez The Making of Shogun et vous avez plein d'épisodes officiels qui sont trop bien et qui, en plus, se payent le luxe de ne pas spoiler.
Yes.
Ça ne spoil pas, même si là vous êtes en retard de un ou deux épisodes, ça ne va pas du tout vous spoiler.
Après, si vous êtes en retard d'un ou deux épisodes, pourquoi vous
qu'est-ce
écoutez...
que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici?
Épisode 8. Car bon, c'est peut-être le moment de le dire assez vite, on va se mettre à vous spoiler tout ce qui s'est passé dans Shogun jusqu'à l'épisode 8 inclus, puisque c'est le concept d'un podcast débrief. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Tu me disais également, alors je te jette sous le bus, je suis navré de faire ça, que tu as reçu un message
oui.
d'une historienne.
Tout à fait, d'une experte en tout cas, qui m'a fait remarquer à très juste titre que j'utilise, comme beaucoup de gens, un abus de langage en parlant de Japon médiéval, puisqu'on n'est pas du tout au Moyen-Âge. Effectivement, en 1600, ce n'est plus le Moyen-Âge. Et je sais que ça entretient un peu cette idée. Il y a plein d'idées reçues autour du Moyen-Âge. Il y a d'ailleurs un podcast qui en parle qui s'appelle Passion médiéviste, qui est très.
Je t'aime tellement. Waouh!
Qui est très chouette pour se sortir un peu de l'idée du Moyen-Âge comme les fameux temps obscurs où les gens se lavaient pas et on mourait à 17 ans, quoi. Donc ce n'est pas le Japon médiéval, par contre c'est bien le Japon féodal, puisque la féodalité c'est pas une période, c'est un système politique, et au Japon ça a duré jusqu'au 19e siècle, la féodalité. Donc excuse, je sais, en plus je le savais en le disant que c'était pas vraiment médiéval, je pense que c'est le côté médiéval quasi fantasy qu'on peut avoir parfois qui m'a induite à cet abus de langage, mais merci pour la rectif, je ferai attention.
Mais
n'hésite pas à me reprendre.
Mais justement, merci. Enfin, moi, je sais qu'à chaque épisode, j'aime bien ce running gag de je vais faire des recherches, parce que moi, c'est ce qui me passionne, c'est vraiment aller chercher les trucs que je vois dans.
Mais t'es en train de devenir moi. Hein.
Et du coup, je sais que parfois, peut-être, enfin, j'essaie de pas faire d'approximation et je fais des recherches et jusqu'à présent, j'ai l'impression de dire des trucs qui sont vrais, que je vérifie et tout. Mais voilà, si jamais on a des experts ou expertes qui nous écoutent, pardonnez les quelques approximations et on est ravis que vous nous corrigiez pour apprendre toujours plus de choses. N'hésitez pas. Voilà.
Si ces experts ou expertes sont notre pote Justin ou notre pote Marie Kigai,
Justin, non.
Vous n'êtes
Justin,
pas vraiment chercheur
Justin,
ou chercheuse en histoire du Japon. Donc
c'est pas parce que tu fais des très bons ramen que tu peux me dire que je dis n'importe quoi. Là, Justin, non, c'est pas possible.
Non, bah très cool, Rocco, merci beaucoup. Et en fait, il y a de plus en plus mini apartés.
Oui.
Déjà, si ça vous intéresse, il y a aussi un podcast officiel Shogun en anglais. Si vous maîtrisez bien l'anglais oral, qui est fait du coup par les équipes de Shogun et de FX, et qui pareil débrief l'épisode en ajoutant des aspects historiques ou des behind the scenes, comment on a tourné ça et tout. C'est vachement intéressant et c'est plus court que nos épisodes à nous, donc voilà.
Écoute, moi j'ai pas de jingle à cet épisode-ci, mais je vais juste me moucher à quelques mètres, donc
ça fera un jingle.
Je te laisse meubler deux secondes.
Il y a pas de soucis. Et c'est vraiment chouette que FX mette en avant comme on disait, le craft et l'artisanat qui va derrière la série. C'est un truc qui se fait de plus en plus. Il y avait ça pour House of the Dragon aussi, qui est une série pour laquelle ils ont créé des costumes, des cultures, des décors et bien sûr des dragons assez incroyables. Et ça se fait de plus en plus. C'est des trucs qu'on retrouvait avant dans les coffrets DVD des séries. Il y avait soit des commentaires du réal et des acteurs pendant que tu regardais l'épisode, soit des comment on a tourné ça. Et ça s'était un peu perdu avec la dématérialisation.
Tu veux dire les vignettes?
Oui, tout à fait. Le bonus. Et parfois, ça coûtait plus cher d'avoir la version avec les bonus DVD.
Bah, évidemment.
Je trouve ça très chouette que ça soit de nouveau des formats disponibles et en plus gratuitement sur YouTube. Que demander de plus à la vie?
Tout à fait.
Alright, Shogun épisode Shogun 8, time. Les abysses de la vie. L'abysse de la vie, oh là là, ça va pas être fun. Rapidement, avant de rentrer dans le dur, qu'as-tu pensé de cet épisode, mon cher Valentin?
J'ai bien aimé, j'ai l'impression que cette série, c'est un épisode que j'aime, un épisode que j'aime moins. L'épisode de la semaine dernière, je l'aimais bien, mais je l'aimais moins. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il se passe des trucs. On va devoir parler, mais on va en parler dans la partie après avec spoiler. Mais les gars, commencez à vous battre là. Mais par contre, effectivement, beaucoup de politique et beaucoup de choses qui... En fait, je trouve que cet épisode, je l'ai bien aimé. Parce que ce qui se passe dans l'épisode, c'est pas le plus important. C'est pourquoi ça se passe et ce qui se passe autour. Et l'épisode en lui-même, c'est un... Moi, je suis sorti de là, j'en parlais avec du coup un ami avec qui je l'ai regardé. Et on est sorti de l'épisode et on était là genre, putain, j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Et en fait, quand tu pousses un peu le raisonnement et que tu réfléchis à « Ok, pourquoi il s'est passé ça ? Pourquoi lui, il a parlé comme ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ?» C'est, je trouve, l'un des épisodes politiquement les plus intéressants depuis le début de la série. Je trouve, voilà.
Ok, good, good, good. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé cet épisode aussi. Pour une fois, on n'a pas pu le regarder ensemble, malheureusement.
Ouais.
On l'a regardé chacun de notre côté, mais j'ai kiffé. Effectivement, on arrive, mais comme à chaque épisode, je dis, on est à ça de la bataille, on est toujours dans le calme avant la tempête, et à chaque épisode, Toranaga gagne du temps.
Oui.
Cet épisode commence avec lui qui gagne une longue période
on
de deuil, et il va en faire bon usage, n'est-ce pas? Mais comme toi, j'aime bien, comme on dit, les séries qui font confiance à l'intelligence de son public, qui n'ont pas besoin de tout décrire, de tout expliciter, et qui savent qu'on peut relier les points. Et on a de toute façon un personnage emblématique qui est Toranaga, dont ça fait partie de son personnage d'être opaque et de ruser,
ouais,
et d'être toujours à trois coups d'avance sur tout le monde. À quel point on lui fait confiance et à quel point lui-même il se fait peut-être un peu trop confiance, on va bientôt le découvrir. Mais effectivement, c'était un épisode très riche et qui comportait un truc que j'attendais beaucoup, qui était un peu le retour de l'intrigue avec les Portugais, qu'on n'avait pas vu là parce qu'on était coincé à Giro pendant plusieurs épisodes.
De fou.
Et bah, pour moi, c'est vraiment les... Ils sont aussi sur cette partie d'échec, quoi. Ils font partie des figurines qui sont en place.
Ouais.
Et je suis contente, du coup, qu'on y revienne.
Mais je suis d'accord avec ce côté. Enfin, je trouve que c'est une série... alors, peut-être pas ce truc de une série pour esthète, machin. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses que la série te met face à toi sans forcément te donner les clés de compréhension tout de suite. Et il faut parfois pousser un peu le raisonnement, ouais. Et... perso, pendant tout l'épisode, voilà, sans spoiler, on est toujours dans la partie sans spoiler, mais il y a toujours ce truc où je me suis demandé, est-ce qu'il a un plan? Est-ce qu'il a vraiment un plan, le gars? Genre, est-ce qu'il est en...
That is the question.
Est-ce qu'il est en pilote auto, là? Mais non, en fait, il a pas l'air d'être en pilote auto.
Non, je pense qu'il a un ou deux tours
dans la manche
de ses très beaux kimonos.
Mais effectivement, donc voilà, très bon épisode politique, et on sent que voilà, ça prépare épisode après épisode au moment où ça va se taper, et j'espère que ça va se taper vite, les canons, les bateaux.
Je pense que peut-être dans la grande tradition de Game of Thrones, l'épisode 9 sur 10, il y a moyen que ça parte, qu'il se passe 2-3 trucs, quoi.
Un petit
Red Wedding Osaka style, un petit Crimson Sky.
Mais on est passé pas loin du Red Wedding à l'épisode d'avant, mais...
Tout à fait. Et d'ailleurs, cet épisode s'ouvre avec les conséquences directes de la fin de l'épisode précédent.
Est-ce que tu dis qu'on ouvre la partie avec spoiler?
C'est le moment où on va spoiler, si vous êtes encore là et que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans l'épisode 8 de Shogun. J'ai plein de questions pour vous, mais à bientôt. Cet épisode s'ouvre avec une procession funéraire pour Nagakado. Rip, petit frère parti trop tôt.
Oui, petit-fils, petit frère.
Petit ange parti trop tôt, finalement, qui était plein d'envie de se démarquer et qui... est mort malheureusement comme un con. On arrive à Edo, le fief de Toranaga, une ville en construction qui deviendra l'actuelle Tokyo.
Tout à fait.
Et on voit Toranaga déjà un petit peu souffreteux pendant ce voyage. Il est un peu racorni sur son cheval, il tousse, il est bien couvert. Il a l'air de faire froid. On se dit, oulala, peut-être que la mort de son fils, c'était le coup de grâce. Il a perdu.
Ouais, peut-être petit test Covid,
Toranaga. Oui, ouais. Aussi, ouais. Petit il n'a pas de masque, c'est dommage. Tu m'as dit que tu voulais parler du, bah, déjà de cette scène et puis du deuil en général.
Ouais, c'était alors sujet déjà, on peut. Alors, j'ai pas de jingle, mais je peux en improviser un. Et j'avais pensé à un truc genre, si tu t'es fait sauver le cul par la mort de ton fils, tape dans tes mains. Ouais, ouais. Parce que.
Si tu t'es fait sauver le cul par la mort de ton fils, tape dans tes mains.
Ouais, ouais. Ouais. Parce que clairement, Toranaga, donc à la fin de l'épisode d'avant, se rend et on comprend que voilà, on s'approche de la fin. Enfin, du moins, on comprend que peut-être il va vraiment se rendre. Et là, il a eu chaud quand même parce qu'au début de l'épisode, pendant qu'ils sont en route vers Edo, ils discutent et donc est mentionnée cette période de 49 jours de deuil, qui est donc une période,
tradition,
une tradition et une période qu'il a pour le coup, mais on pose le transfert de Toranaga à Osaka. Et donc, il vient de se gagner, concrètement, 49 jours. Alors, il ne l'a pas voulu, parce que son fils est quand même mort en tombant sur un caillou et en glissant, bon, RIP.
Et en perpétrant une attaque
et ça, alors,
individuelle. Ça... Est-ce que c'est Toranaga? Enfin, a priori, là, c'est pas Toranaga qui l'a envoyé essayer de tuer son frère. Donc,
mais d'ailleurs, je me suis demandé, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'ils savent, tu vois? Genre, est-ce que Toranaga sait que son fils est mort en essayant d'attaquer
Ah, je pense que oui, quand même.
Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, effectivement, son fils est décédé. Et donc, il y a cette période de deuil. Et je trouvais ça moins intéressant. Et donc, du coup, je me suis intéressé à... Tiens, pourquoi est-ce que c'est un truc qui était prévu par Toranaga? Pourquoi est-ce qu'il y a 50 jours de deuil, etc. Et en fait, c'est effectivement une tradition qui était répandue dans plein de pays d'Asie à l'époque. C'est une tradition qui vient du bouddhisme et qui là en l'occurrence est un peu liée au shintoïsme. Et ça fait partie effectivement du rite funéraire shintoïste et bouddhiste d'attendre. Il y a différentes étapes et donc le deuil dure 49 jours et le 49e jour c'est normalement le moment où l'âme de la personne va quitter son corps et donc du coup le deuil est fait et voilà, moi je voulais juste parler de ça. Et il y a un moment aussi dans l'épisode où on voit, en faisant des recherches je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs épisodes où on avait vu ça. Il y a un moment dans cet épisode où on voit Toranaga se recueillir et prier avec une seule main. Il prie avec une seule main devant son visage. Alors, je me suis renseigné, pourquoi tu pries avec une seule main?
J'ai envie de voir ton historique Google.
Il n'y a aucune raison pour laquelle il prie avec une seule main. Même tous les gens sur Reddit disent que c'est juste pour avoir l'air cool.
Moi, j'y crois, c'est Hiroyuki Sanada, donc j'y crois.
Tu peux prier avec une seule main si ta main droite est occupée, par exemple, je sais pas, sur ton épée ou à boire du thé ou je sais pas quoi. Mais là,
généralement, quand tu pries, tu poses ton drink quand même. Ouais. T'es pas là en mode attends, Jésus, j'ai les mains prises, là j'ai la pinte des potes, mais merci. Tu vois,
mais effectivement, là, il prie juste à une main pour avoir l'air cool. Et donc voilà, il faut, de ce que j'ai cru comprendre, et là, bah, du coup, je suis très curieux s'il y a des experts ou expertes qui nous écoutent. À l'époque, c'était donc au Japon, si je ne dis pas de bêtises, le shintoïsme, et c'est après, plus tard, aux alentours de 1800, donc là, on est à l'ère Edo, aux alentours de 1600, mais plus tard, en 1800, lors de la réunification, que les pratiques vont être plus clairement définies et qu'on va davantage mettre des choses dans la boîte du shintoïsme et dans la boîte du bouddhisme. Mais à l'époque, c'est un peu... Et en fait, la série apparemment traite ça très bien. Il y a plein d'inspirations de pratiques différentes. Et dans le livre, mais corrige-moi si je me trompe parce que toi, tu l'as lu, il y a un vrai rapport qui est décrit à la religion et comment les différentes religions affectent les gens. Ben, il y a Blackthorn qui est protestant. Même au sein des Japonais, ben, ils sont du coup, j'imagine, dans le shintoïsme. Mais voilà, il y a... Je trouve
même ceux qui... Effectivement, il y a plusieurs personnages qui ont leur propre rapport à la religion et à des formes de religion un peu hybrides comme Mariko qui est certes chrétienne et catholique mais qui incorpore aussi forcément une philosophie plus liée au shintoïsme et au bouddhisme, notamment avec... Certes, elle est... En fait, elle a cette dualité de, dans la religion catholique, le suicide, c'est un péché capital. Ouais. Et en même temps, elle veut que se faire seppuku, tu vois, ce qui est quand même un peu... un suicide. En parlera plus tard, mais je pense que la finalité, c'est de se donner la mort. Donc, et on voit que même dans les personnages qui sont dans des rites shinto, ils ont tous un rapport différent à leur religion, mais comme tu peux prendre 10 chrétiens, et il y en a qui vont être.
Oui, évidemment.
Voilà, je le fais parce que c'est les rites, il y en a qui vont y croire à fond, il y en a qui vont voir ça un peu plutôt comme une superstition et de la chance. Yabushige, il a un peu ce côté.
Oui.
Tu vois, il est fasciné par le destin, par la mort, etc. Donc,
pas mal par la mort.
Il a même un rapport étrange à. tout ce qui peut être spirituel, vie après la mort, etc. Donc oui, c'est je continue à vous recommander le bouquin, hein. C'est un bon gros morceau de 1000 pages, mais c'est vraiment chouette si la série vous plaît. Ça, en plus, je pense que c'est marrant de le lire après avoir vu la série. Ouais. De voir les différences et tout.
Ah bah je suis très curieux. Alors je dis pas que je le lirai parce que c'est quand même un gros morceau. Et moi perso, la lecture c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte d'essayer. Et ouais. Donc voilà, je voulais m'intéresser au rite funéraire. Et effectivement, ils se sont fait un peu sauver le cul par ces 49 jours de deuil.
Par un rocher qui glisse.
Par un rocher. Et donc vient effectivement la question que moi je me posais à l'épisode d'avant. Qui est est-ce que t'auras un agacé, est-ce que, enfin, c'était pas prévu que le gars il meure, mais ils ont eu chaud de fou quoi, parce que s'il était pas mort, bah en fait Toranaga là ça part hop directement à RORB tout Osaka, enfin.
Ben j'ai pas l'impression, moi je suis pas dans la team Toranaga, il a tout prévu à la minute près, il savait que son fils allait faire ça. Toranaga c'est plus, il est sur les vagues tu vois, et il prend, en fait il s'adapte en permanence tant que. C'est vraiment you live to fight another day quoi. Tant qu'il y a un lendemain, tu vois, il y a pendant longtemps, il avait un sursis parce que Lady Ochiba était à Edo dans son fief à lui, donc elle était un peu en otage. Mm-hmm. Il a fait durer ça le plus longtemps possible en mode mais non, mais c'est juste parce que sa fille accouche et tout machin être obligé de la ramener. Ensuite, il y a eu contretemps de vous êtes plus que 4 régents et pas 5, donc vous pouvez pas voter. En fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour être sa devise s'il était plus beauf et moins cool. Mais ça veut pas dire qu'il savait ce que son fils allait faire. Si ça avait pas été ça, ça aurait été peut-être été autre chose. Ils sont en route vers Osaka, bam, tremblement de terre, tu vois. Peut-être qu'il aurait donné son bateau à Black Sand pour qu'il vienne les canonner sur la côte. Enfin, j'en sais rien, mais les canonner, tout à fait, les encanonner.
Du terme, les canonner.
Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'au début de l'épisode, quand tu vois Toranaga tousser et tout malade, t'y crois ou pas?
Ouais, de fou. Ouais. En vrai, quand je le vois malade. Alors, je me dis.
Il est fort Hiroyuki Sanada.
Je me dis à quel moment il a chopé un rhume entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Parce que.
Bah, ils ont fait tout le trajet jusqu'à Edo, donc ça doit quand même pas être 20 minutes. Quoi.
Et c'est vrai qu'on oublie que, ils ont pas. Enfin, ils ont pas les médicaments. Tu vois, c'est compliqué, quoi.
C'est mieux qu'à Londres. Donc, moins bien qu'au CHU le plus proche.
Voilà. Donc,
et puis, il est pas tout jeune, quoi.
Et puis, il est pas tout jeune. Et donc, je le vois arriver tout sang et tout. Et ça renforce vraiment ce côté, mais on va parler du rapport au théâtre et tout, et du rapport au jeu d'acteur dans cet épisode, mais ouais, il me fait vraiment croire qu'il est malade, et au-delà de ça, je pense qu'il fait croire aux autres qu'il est malade.
Bien sûr.
Et c'est là qu'il réussit. Je le vois tousser Sarah, je me dis, il va canner avant la fin de l'épisode, c'est sûr. C'est certain. Là, désolé, mais non, mais attends, mais...
Tu t'es fait eu.
Tu le vois tousser, le mec est là en mode, il a un gars...
Moi, je ne crois rien de ce que Toranaga fait en public, déjà.
Il a un gars qui le porte, il a un gars qui l'aide à marcher.
Mais il faut faire semblant d'être faible, et tu sais, et il y a une scène où il tousse quand il est tout seul. Et là, à un moment, j'ai douté, je me suis dit, là, il n'y a personne qui le voit, et il tousse.
Attends.
Et il y a un film que j'adore, c'est Le Prestige. Okay. C'est mon Christopher Nolan préféré, c'est un film sur un duel de magiciens...
C'est vrai.
Illusionniste au 19e siècle, non, au début... 19e siècle, genre exposition universelle, époque fin de victorienne et tout. Et d'ailleurs, j'en ai fait un épisode du podcast cinéma Le Film Club que je co-anime avec Fabrice Florent, donc vous pouvez retrouver toutes mes pensées dessus. Mais dedans, il y a l'idée que pour faire de bons tours, il y a des magiciens qui, en gros, quand ils sont en personnage, ils le lâchent jamais. Et notamment, il parle d'un magicien venu de Chine qui est un vieil homme tout recourbé qui marche avec des cannes, etc. Et qui fait un tour où, en gros, il passe une toche devant lui et ça fait apparaître un énorme bocal à poisson, plein d'eau avec un poisson.
Ah oui.
Donc c'est lourd. Et ils sont là, mais comment il fait? Genre vraiment, c'est un papy. Et un des deux magiciens, il dit, en fait, il fait semblant. Il fait semblant d'être infirme, il fait semblant de boiter. Mmh. Et l'autre, il dit, mais non, mais je l'ai vu dans la rue, je l'ai vu et tout le temps, en fait, il est comme ça. Genre, tu peux pas faire semblant tout le temps. Et l'autre, il est là, tu dis ça parce que t'es pas un vrai magicien. Bien sûr, tu fais semblant tout le temps, même quand t'es tout seul. Et ça devient un point très important du film Le Prestige. Donc moi, je vois Toranaga tousser tout seul.
Toi,
t'es
trop en mode Christian Bale, là.
Moi, je suis limitless. Je me dis, ah, il tousse tout seul, donc il est vraiment malade. Et après, je suis là, bien tenté, Hiroyuki Sanada.
On va...
Bien tenté, Toranaga-sama. À mon avis, il tousse tout seul, mais dans sa tête, il est là.
On va poser cette information là. Et effectivement, elle a son importance, puisqu'on verra à la fin de l'épisode qu'il se passe des choses. Et voilà.
Il se passe des bails.
Mais il tousse en public, il tousse tout seul. Et je pense que ça fait partie. Enfin, on en parlera, mais ça fait clairement partie de la comédie, quoi.
Bah oui, pour un homme aussi fier, tu te dis, il se mettrait jamais dans cette posture humiliante, quoi.
Oui.
Mieux vaut être vivant que fier et mort. On a une mini scène à Osaka. Où écoute, le camp Ishido est plutôt content parce qu'a priori ils ont réussi leur coup. Voilà, le fils de Toranaga est mort, il s'est rendu, il est certes en probation, en période en astreinte, en période d'essai à cause du deuil, mais ça va assez vite être réglé. Cependant, Oshiba, elle dit, moi, j'y croirai quand je le verrai, tu vois. Oui, tant que, tant qu'il est pas mort, il est pas mort, il peut toujours nous en faire une à l'envers. Ishido, de son côté, est plutôt ravi de lui-même. Et il a une proposition pour Oshiba, pour célébrer ça, et puis, pourquoi pas, renforcer leur alliance.
Bah, il veut se marier.
Il la tente.
Et franchement, il a tenté le move. Il s'est dit, tu sais quoi, là, je pense que c'est le bon moment. Là, c'est
ce
maintenant.
Pour moi, ça ne dit pas beaucoup de bien de son instinct de survie personnel. On sait déjà qu'Ishido, c'est pas le katana le plus aiguisé de l'armurerie. Mais je me dis, t'as vraiment envie de te marier. C'est comme demander en mariage une montre religieuse, tu vois. Genre, elle fait trop peur.
Ouais, non, mais de fou. Et en fait, je pense que, à mon avis, j'ai perçu ça comme. Parce que je sais pas trop dans le cas du mariage à ce moment-là au Japon, si c'est une société matriarcale, si ça renforce davantage les droits du gars ou les droits de la meuf.
Bah, les droits du gars, et comme dit un moment Blackthorn dit en parlant de Buntaro, à Londres comme in the Japans, une femme est la propriété de son mari.
Et ben, le truc c'est que.
C'est son seigneur, tu vois.
Quand tu penses. Parce que j'imagine que lui il se marie parce qu'il veut avoir 6 coups d'avance sur Ishido et tout. Non, sur. Non. Oui, non, comment s'appelle la
Oshiba?
Oshiba, pardon. Je suis vraiment nul en prénom. Il pense avoir 8 coups d'avance sur elle. Mais en fait, désolé, mais c'est toi la vicose du mariage. C'est elle qui a 12 coups d'avance sur toi.
Bien sûr.
Et donc, on verra plus tard qu'elle accepte son offre de mariage et elle décide de voilà.
Non, mais elle va lui faire une gonger.
Mais
clairement. Il va rien voir.
Très clairement. Je suis désolé, mon ref, mais là, tu t'es mis dans des Zumba. Là, il faut signer les papiers très vite.
Ouais, faut faire un contrat prénuptial, tu sais, parce qu'elle va tout te prendre. Hein. La pension des gosses, là, mon gars.
Il va avoir une balise GPS.
Son gosse, c'est l'héritier du Taiko. T'imagines comment il coûte cher à l'année
non,
en pension.
Il s'est mis dans une sauce.
Ouais, ouais. Ishido, je pense qu'il y a un aspect patriarcal dans cette demande en mariage. Je pense que Ishido, malgré tout, il sous-estime Oshiba parce que c'est une femme.
Clairement.
Et qu'il pense que. Elle, pour elle, le mieux, ce serait d'être sa femme à lui et donc d'être dans sa team parce que ça va être lui le chef des régents, sans comprendre que c'est vraiment elle qui va le mener par le bout du nez. Et en plus, il sait qu'elle a pas peur du meurtre, etc. Quoi. Donc, personnellement,
bof.
Je ne l'aurais pas fait,
non, moi,
mais on verra comment ça se passe pour
lui. Moi, j'aurais demandé quelqu'un d'autre en mariage, par exemple.
Après, ça va peut-être être une belle cérémonie. Peut-être qu'il y aura du gâteau, faisant pourri, tout ça. Quoi.
Et rappelons que de tout, tu l'as dit là tout à l'heure, mais de tous les persos pour l'instant, la seule qui est là en mode « Peut-être que Toranaga, il fait semblant !» C'est elle. En fait, c'est Oshiba.
Oui,
et genre, c'est la
seule
qui réfléchit 2 minutes. Et je pense que jusqu'à la fin de la série, peut-être que tout le monde va croire au voilà, on va parler de il fait croire d'être malade, il fait croire de se rendre machin et tout. Je pense que jusqu'au bout, la seule qui va ne pas y croire, c'est Oshiba.
Oui, pour elle, tant qu'il est pas mort, il est pas mort.
Ouais.
Et elle a raison. Après, il y a plusieurs personnages, notamment dans cet épisode, qui doutent, mais c'est un mix entre le doute et ils ont envie de croire qu'il y a un plan, tu vois, parce que eux aussi, forcément, ils sont condamnés si Toranaga se rend. Donc il y a d'autres personnes qui doutent, mais il y en a qu'une qui est vraiment sûre et c'est Oshiba.
Ouais.
And she's right. De retour aux funérailles de Nagakado, où on peut noter d'ailleurs que comme dans pas mal de cultures, la couleur du deuil est le blanc. Donc on a des processions et des corps et tout vêtus de blanc, etc.
D'ailleurs j'ai le nom de la robe, si ça t'intéresse, le nom de la robe blanche. Qui s'appelle, mais vas-y, tu peux meubler, hein,
D'accord. Non, bah, c'est pour noter qu'on a là aussi des dissensions dans le camp de Toranaga qui est en train de s'entre-déchirer parce qu'ils sentent que. Enfin, ils sont contre la reddition du seigneur. Il y a un personnage qui note que les généraux portent leur armure en guise de protestation parce que Toranaga est censé avoir accepté la défaite.
Oui.
Et il y a plusieurs de ces généraux qui viennent en armure. Et il y a Bushige et Omi qui discutent de. Mais c'est pas possible, on va pas se rendre compte.
C'est un truc particulier parce que. T'as des traditions effectivement sur les tenues à un enterrement, enfin selon les rites funéraires au Japon à ce moment-là. Et effectivement, le fait de venir en armure, c'est un statement quoi. C'est
t'emmènes ton calibre à l'enterrement quoi.
Voilà.
Pour un moment de paix, c'est pas fou.
Et bien
donc il y a peut-être aussi cette menace pour Toranaga qui est que à force d'avoir 8 coups d'avance et de partager ses plans avec personne ou presque, il risque de se faire renverser par le doute qui est en train de vraiment répandre dans son équipe. Quoi.
Je pense que doute, c'est le mot-clé de cet épisode. Ouais.
Oui.
D'ailleurs, donc, vous serez ravis d'apprendre que l'habit blanc utilisé dans les rites funéraires à l'ère Edo s'appelle le Shinichozoku. Le
Shini, ça veut dire mort.
Shinichozoku.
Je le sais parce que j'ai lu Death Note.
Dont la... wow.
Il y a un dieu de la mort.
Mais
dedans.
Attends, mais je suis en couple avec cette personne qui me cite Death Note un samedi à 12h20. On est sérieux ici, on parle du Japon, on parle d'histoire, on parle de... Et toi, tu me parles de Light
Death
Yagami.
Note, c'est l'héritier d'une longue tradition de divinité de la mort dans des contenus populaires au Japon.
Vais,
voilà,
je,
sois
je
pas
dégueu. Je vais devenir méchant.
Je deviens Light Yagami.
Et donc, le Shinichozoku, la traduction serait un habit pour le voyage vers l'éternité. C'est un kimono blanc pour les femmes et pour les hommes. Mais les hommes peuvent également porter un costume. Et fait intéressant, le kimono blanc... Donc le Shinichozoku est croisé. En fait, on croise le kimono de façon différente en fonction de si la personne est vivante ou décédée. La personne décédée.
C'est
le...
bien si t'as un doute. Tu peux regarder le croisement et dire ah non ça va, c'est bon.
Ouais, bah en fait,
j'ai cru que t'es mort, mais c'est bon. C'est-à-dire tu le croises bien, mais tu meurs avec ce kimono.
Imagine tu le croises mal.
En train de mourir, t'es là.
Tu
ah non,
croises
moi,
mal. Tout le monde croit que t'es mort. Ils sont.
Tout le monde est là, putain fantôme. Sa mère.
Et donc, sur les personnes décédées, le Shinichozoku était croisé vers la droite, et pour les personnes vivantes, vers la gauche. Voilà. Et donc, voilà, vous avez, voilà, c'est tout.
Merci. Est-ce que tu as une réaction sur cette séquence, et notamment les tensions ?
Bah, pas tant sur les tensions, mais plus sur le... Enfin, l'émotion, quoi. Il y a ce truc de, à la fin de l'épisode 7... Il y a donc le frère de Toranaga, Saiki. Saiki ou Saike ?
Saiki.
Saiki. Qui, lorsque le fils de Toranaga meurt sur un caillou, il lui dit putain, t'es vraiment tout ça pour ça, quoi. T'es mort pour
qu'est-ce
ça,
qu'il
quoi.
Y a de beau là-dedans ?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Et en fait, ouais, j'ai pour moi, à son enterrement, comme dans le trajet vers Edo, quand il se dirige là vers Edo. J'ai vraiment toujours cette impression de « il est mort pour rien » et c'est une émotion que j'arrive à percevoir pendant l'enterrement. Et alors ouais, il y a de la tension, mais il y a aussi, je trouve, beaucoup d'émotions. Et c'est une...
Oui, et je pense que les deux sont sincères.
Oui.
C'est-à-dire que Toranaga a beau peut-être surjouer à quel point ça l'afflige, ce deuil et cette, entre guillemets, maladie, bah, il a quand même perdu son fils.
Ouais.
On sait... Alors on a une petite scène, parce que quelqu'un sur Instagram m'a demandé, je vous ai demandé si vous aviez des questions ou des réactions à l'épisode, quelqu'un m'a demandé quid de la femme, enfin la personne qui portait l'enfant de Toranaga, qui était enceinte, qui a pas pu quitter le palais d'Osaka. On la voit rapidement dans cet épisode. Elle a eu son enfant et elle a surtout eu la certitude qu'il lui arriverait rien à elle ni à son enfant quand Toranaga aurait rendu les armes et serait exécuté. Donc we good sur ce front là, en tout cas.
Tout à fait. Mais non, moi c'est une scène que j'ai appréciée, mais ouais, il y a de l'émotion, quoi. On sent que les gens ne sont pas bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Toranaga, bah, il y a ce truc du destin et ce truc de il faut composer avec ce que la vie met devant toi. Et voilà. Enfin, de toute façon, c'est aussi une notion qui revient beaucoup dans la série, puisque il y a dans le comment dire la culture japonaise à ce moment-là un vrai rapport au destin, à la mort, et qui est pas mal présenté dans la série. Bah, il arrive quand même, Toranaga, je trouve, il a la mort de son fils, il doit la gérer, mais il arrive quand même à l'utiliser à bon escient, tu vois, à l'utiliser pour s'en sortir, et à l'utiliser aussi pour gagner du temps. Et il y a ce bon équilibre entre merde, il est cané, et bon, on va gérer ça comme on peut, quoi.
C'est exactement ce qu'a dit Ochiba. Elle a dit que pour elle, il y a deux types de personnes. Il y a celles pour qui, il y a celles qui subissent le destin et celles qui le modèlent pour en faire.
Tout à
non,
fait.
C'est Lady Jin qui lui a dit.
Oui, c'est Lady Jin.
En lui disant justement, je pense que vous n'êtes pas en train de vous rendre. Je pense que vous avez un plan.
Qui était pour l'instant la seule qui avait vraiment compris et formulé clairement ça et qui a un peu confronté Toranaga en mode frérot, arrête, je sais que bon. Ouais, oh.
Et on va voir dans cet épisode que les aventures de Lady Jin et de Kiku continuent.
Tout
à
fait.
Edo, mais avant ça. Eh bien, il est temps pour Black Sand de recroiser un premier visage connu, qui n'est pas encore celui de My Man, un de My Ship, celui de quelqu'un qu'il aime un peu moins, hein, le bon catholique Father Martin, puisqu'ils se croisent dans les rues d'Edo, et ma foi, c'est vrai que Black Sand a bien changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Par exemple, il se lave maintenant les aisselles.
Ah ben, de fou, il est là pour choper du bois, parce qu'il en a besoin pour faire du feu. Et
il fait ses courses,
il
trop
fait,
mignon.
Mais il fait ses courses,
il parle
ses
en,
courses
japonais.
En japonais.
Il galère, mais il s'en sort.
On sent qu'il a deux mois de Duolingo derrière lui, parce que là, il arrive, il dit « Je voudrais du bois, s'il vous plaît, machin, machin. »«
Je peux goûter ça, ah oui, je vais vous en prendre et tout. »
Et là, il y a l'autre avec sa coupe en moine, là. Lui, il a vraiment une coupe de vache craftée pour son chapeau. Je suis désolé, mais...
Bah, c'est son Sean Maggie à lui.
Il est BG de fou, tant qu'il a son chapeau en triangle. Dès qu'il enlève son chapeau vache Kiri, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis désolé, c'est très compliqué. Et donc il y a le Portugais là qui arrive.
Fazer Martin.
Fazer Martin. Désolé, mais lui je l'aime pas. Donc moi je. Il y a des gens dont je fais l'effort de retenir le prénom. Ces gens, je les aime bien. Fazer Martin, je m'en fous. Fazer Martin,
tu,
désolé,
tu
je m'en fous.
Tu ne pas le prénom des gens que t'aimes bien, c'est mentir.
Attends, épisode 8, j'arrive à dire Yabushige. Donc oui. Voilà.
Mais Ochiba, c'est toujours dur.
Ochiba, c'est toujours compliqué. Parce que ça ressemble un peu à Ichido. Et,
oui, Ichido, bref. Ochiba.
Et donc, il y a Fazer Martin là, qui arrive derrière lui. Et comme lui, il parle japonais mieux que Blackthorn, il tente de le corriger en mode je pense qu'il voulait plutôt dire ça, machin.
Non, mais grave.
Et là, mais il voulait le catholic-splain.
Il lui mansplain.
Il lui catholic-splain le bois. Et donc Blackthorn, il se retourne et il dit Non, mais en fait, je voulais très bien. Et donc il se corrige lui-même et il dit je voulais plutôt du charbon. Et là, l'autre, il regarde ses pompes en fait. Bah, désolé, mais t'es nul.
C'est l'heure de rentrer.
C'est l'heure de rentrer.
Rentre chez what?
Rentre tocard. Avec ton chapeau en triangle, tes cheveux qui manquent.
Va t'asseoir sur un cruci. Non.
Allez, non, non.
Donc, non, il y a une petite discussion entre les deux.
Putain, t'es cancel, j'en peux plus. Tu peux pas dire ça. Il y a des...
Non, parce que j'allais te demander si, à ton avis, est-ce que, de par son apprentissage de l'hygiène, Blackthorn a appris décaloter, contrairement à Michou? Et du coup, maintenant, il sent meilleur. Voilà, c'était une question que je voulais te poser. Je me suis dit, je vais pas la poser, mais maintenant que tu m'as dit, je suis cancel. Et eh bien autant le faire quoi.
Eh mais tu, enfin il est.
Je vous mets un lien dans la description si vous avez pas la ref.
Il est midi 30. T'as pas. J'ai bu deux cafés seulement. T'as pas le droit de. Bon bref. Et donc il y a le con qui arrive. Il fait le con avec Blackthorn et Blackthorn il lui dit non maintenant je suis Hatamoto et je sais parler japonais donc je vais prendre mon charbon et tu vas aller bien niquer ton cul. Et ensuite.
C'est exactement ce qu'il.
Et ensuite
dit.
Il s'en va.
Non, et sur le prêtre quand même lui demande oui, est-ce que tu porteras ces vêtements là quand tu iras voir tes hommes et en gros il lui fait comprendre que. Il peut pas revenir en arrière, il peut pas revenir à qui il était et qu'il risque d'être un peu déçu en retrouvant ses hommes et que bah il sait aussi qu'il est dans le camp de Toranaga et que Toranaga oui. A priori n'est pas le camp gagnant, ce n'est pas le bon cheval. Donc mais je pense qu'il y a une forme d'empathie sincère de en fait Blackthorn, tu sais toujours pas dans quoi t'as mis les pieds quoi, c'est là ta vie elle est
ouais,
pas normale,
là...
tu vis t'es à ta moto mais tu vis pas dans le bon quartier.
Ah bah sa vie est pas normale.
Ton seigneur il va se rendre, ta traductrice c'est ciao parce qu'il y a aussi un petit échange entre Mariko et Blackthorn où il dit qu'est-ce qui va arriver à ma traductrice si moi je reste à Edo et que vous partez pour Osaka. Donc c'est un peu la fin d'une ère, c'est une page qui se tourne pour Blackthorn et lui il pense c'est pas grave, je récupère mes hommes et mon bateau et je rentre et ouais, le père essaye de lui faire comprendre que tu peux pas revenir dans le passé finalement.
Et pour revenir à ce truc de la tenue, effectivement, Fazer Martin lui dit est-ce que tu porteras cette tenue quand tu vas recroiser tes hommes et lui avec assurance Blackthorn lui répond bah oui. D'un côté je le comprends parce que bah déjà lui il avait je pense embarqué une ou deux tenues max de l'Angleterre pas lavées.
Ils ont versé des tripes de poisson dessus.
Non
hein.
Mais et je pense qu'en vrai. Une fois que, même au-delà du côté, il est trop profond dans sa vie japonaise, là, il peut pas revenir en arrière et tout. Désolé, mais quand t'as goûté, à mon avis, au plaisir des couilles à l'air dans le kimono, tu ne peux pas revenir en arrière.
Alors, si ça peut te rassurer, il portait pas vraiment de slip avant non plus. Hein. On était plutôt les couilles à l'air dans les hauts de chausses.
Ouais, mais il avait un truc un peu plus serré, tu vois, un peu plus.
Ah là, il est libre.
Et là, en vrai, je pense qu'à mon avis. Lui, il part pour aller dire à ses potes, les gars, ça
il est en free the nipple.
Ça fait 6 mois, je porte un truc, c'est trop bien, vous allez voir. Bon, ça va pas se passer comme ça, malheureusement.
Est-ce que aussi vous connaissez l'eau chaude? C'est-à-dire, tu te mets dedans et après, il n'y a plus les poux. Incroyable ou pas?
Lui, il va revenir en Angleterre, il va dire, oh les gars, on peut se laver plus de 2 fois par semaine.
Non, pas 2 fois par semaine, t'es généreux. Vraiment, lui, deux bains en 10 jours, je vais tomber malade. Donc, rappelons qu'il vient de loin. Mais avant qu'il retrouve ses hommes, on va passer à. L'homme de la situation finalement, Toranaga-sama himself,
évidemment.
Qui en compagnie de Mariko, eh bien, reçoit lui aussi le Fazer Martin pour parler des potentiels rôles politiques puisqu'il avait demandé au Fazer Martin de convaincre les régents chrétiens de s'allier à Toranaga et de renverser Ichido, ça n'a pas marché.
Bof.
plan B. Fazer Martin lui conseille de plutôt essayer de s'allier à Ochiba. Il dit à mon avis c'est votre meilleure chance.
Ouais.
Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, normalement c'est bon et à vous deux vous pouvez aisément prendre le contrôle de la situation, ce qui n'est pas forcément faux.
Aisément.
Et Toranaga dit qu'elle n'a pas de raison en gros de s'allier à lui et de lui faire confiance. On sait qu'elle le hait viscéralement. Lui il sait sûrement plus pourquoi que nous.
Oui.
Et il y a une certaine froideur aussi dans cette scène entre Toranaga et le Fazer Martin puisqu'il oblige. Il l'oblige à parler en anglais, que ce soit Mariko qui traduise pour être sûr que tout est vraiment dans les clous et tout. Donc on sent que la confiance est rompue. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène de négo politique, mais qui au final débouche sur un statu quo?
Ben, un statu quo où quand même il lui donne le droit de construire une église,
oui,
qui était sa part du marché qu'il avait promis dès le début. Et moi je le vois comme
on verra qu'il y a un twist, mais ouais, pour l'instant l'église est contente.
On verra qu'il y a un petit twist sur l'église sympatoche. Mais non, moi je vois ça comme en fait maintenant j'arrive plus à percevoir la relation Fader Martin Toranaga comme je l'apercevais au début, évidemment, parce que Blackthorn est passé par là. Blackthorn il a planté dans l'esprit des Japonais et de Toranaga particulièrement la petite graine de déjà on a plusieurs religions, nous, tu vois, les cathos et les protestants. Peut-être que lui c'est un connard et qu'il est là pour son propre intérêt. Peut-être le camp Amakao avec les Ronin, tu vois, genre il y a plein de trucs où Toranaga il se méfie maintenant, je pense, des cathos, mais il sait aussi que ils sont beaucoup plus puissants que juste Blackthorn qui est tout seul avec son kimono et
son protestantisme.
Et son protestantisme. Donc pour moi, il est encore dans le metagame à ce moment-là, Toranaga. Mm-hmm. Il prend les infos qu'il doit prendre et surtout à la fin, il sait que il doit pas. Enfin, c'est pas dans son intérêt de décevoir les cathos et c'est pour ça qu'il lui donne son église, je pense. Mais en fait, ouais, Fader Martin, désolé, mais plus le temps passe, plus tu sers à rien, quoi. Enfin...
Bah oui, ça vient aussi du fait qu'on a vraiment lâché l'arc avec les Portugais pendant plusieurs épisodes.
Ouais.
Du coup, là, c'est un peu trop peu, trop tard. Même si, voilà, on a revu le père Martin, on a vu qu'il a essayé quand même de sauver Toranaga, quoi, qu'il est pas en mode « t'as perdu, tu vas te faire exécuter ».
Non,
il
non,
dit,
non,
voilà,
ouais,
y a peut-être un dernier coup à jouer, parce qu'il croit que Toranaga est au bout de ses coups à jouer.
Mais c'est quoi leur plan là, tu vois, genre c'est quoi leur game au Kato, c'est quoi le...
Bah les Kato, ils sont là, en fait vos guerres intestines c'est pas notre problème, nous on fait du commerce et de l'évangélisation, il se trouve que 2 des 5 régents sont dans notre team, voilà. On a toujours en suspens cette idée de Saiki qui est le 5e
ouais,
régent, est-ce qu'il a pas en vrai un accord avec Toranaga pour, tu vois, tout ça être un long game où il va arriver et saboter le truc de l'intérieur, mais bon, on sait que du coup sur au moins, il y avait 4 régents.
Ouais.
Ichido, on a fait tuer un. Il reste Ichido et 2 et 2 catholiques. Donc, il y a quand même une certaine puissance là-dedans. Et du coup, l'église catholique, elle est en mode... En fait, nous, désolé Toranaga, mais t'es là, t'es pas là. On est là, nous, ce qui est vrai.
Oui,
et
oui,
Toranaga, il a un peu rien à perdre, dans le sens où, comme tu dis, il a pas vraiment d'intérêt à se les mettre à dos.
Grave.
Soit il échoue, il meurt, et bon, il leur a accordé une église, qu'est-ce qu'il y en a à foutre. En plus, on verra qu'il leur a laissé un petit cadeau avec. Soit il réussit, et il est en bon terme avec les catholiques. Et n'oublions pas qu'il sait maintenant l'importance du fameux Black Sheep, qui est toujours...
Oui.
Si je dis pas de bêtises, qui est toujours là, parce que Blackthorn avait proposé de l'attaquer.
Il le repropose même durant cet épisode à une ou deux reprises. Ouais. Le Black Ship est toujours là, donc le Black Ship, c'est donc le bateau dans lequel les catholiques, globalement, ils dorment, ils font leur truc et ils font leur
bateau. Non, c'est le bateau de commerce, c'est une fois par an, c'est le bateau qui amène toutes les richesses du Portugal, de la couronne portugaise et espagnole au Japon. Et c'est pour ça que le capitaine voulait partir et qu'il disait, en fait, moi, mes ordres, c'est la reine... d'Espagne,
ouais,
c'est pas vos bails de catholiques, c'est moi je travaille pas pour l'église. Mais non, je crois qu'il est sorti parce que c'est le bateau avec lequel ils ont forcé Osaka.
Ouais.
Donc je pense, et le capitaine il voulait partir justement tôt pour éviter les typhons. Donc je pense qu'il est quelque part en haute mer. Mais bon, Toranaga a plus d'infos maintenant sur les catholiques, il connaît la base de Macao et tout. Donc quand bien même il réussit son coup, donc déjà Machala il est pas mort et ils ont une église, lui il a d'autres coups dans sa manche ou Hansugen pour gérer les catholiques.
Ouais.
C'est un peu genre les catholiques, c'est après-demain. Là, on bosse sur
dans
10 minutes.
Allez donc, faire votre église et votre truc là.
Voilà, le temps qu'elle soit. Alors, moi j'ai lu Les Piliers de la Terre. D'accord, c'est très long. Sur une cathédrale. Plus le terrain est un petit peu marécageux, un petit peu boueux. Est-ce qu'on va partir sur une construction en pierre, mais quid des fondations? Est-ce qu'on va partir sur une construction en bois ou en papier traditionnel?
Dis-moi
mais quid
plus
de la
sur
fragilité.
Comment on nivelle le terrain quand on fait une église au Japon féodal, tiens?
Je ne sais pas, car je t'avoue qu'il n'y a pas de consulting Ken Follett, l'auteur des Piliers de la Terre, dans Shogun.
Mais par exemple, dans les Piliers de la Terre, genre quand tu dois
alors
faire...
Dans les Piliers de la Terre, ils expliquent, mais c'est beaucoup plus tôt, c'est en 1100.
Oui, mais
ils expliquent comment excaver les profondeurs, niveler le tout avec des systèmes de fil à plomb pour voir quand est-ce que c'est droit, les premiers niveaux. Ils expliquent même comment faire un pont en pierre au-dessus d'une rivière
qui coule
pendant que tu fais le pont, donc comment tu poses les trucs. Amazing, n'hésitez pas à lire Ken Follett si... l'architecture médiévale, et là, pour le coup, j'ai raison de dire médiévale.
Oui, tout à fait.
Vous intéresse. Back to the Japans. yes, donc on verra qu'est-ce qui se passe avec les catholiques par la suite. Je pense qu'on les reverra dans le 9 et dans le 10,
parce qu'on va
finir cet arc-là. C'est l'heure pour Buntaro et Maliko-sama de prendre le thé.
Alors,
je vais te laisser la parole,
Buntaro,
Valentin.
Non mais bon.
T'as des opinions sur ce cher Bunti.
En vrai, désolé, mais pour moi, on est déjà à ce stade où Mariko, elle doit revoir son ex, tu vois, genre, c'est le verre awkward avec son ex. alors qu'ils sont encore mariés et tout, ils sont encore, voilà, machin, mais elle lui claque des trucs. Donc, Buntaro et Mariko vont se recueillir dans une salle de thé.
C'est Buntaro qui lui propose, oui, qui organise ce moment d'intimité et de raffinement, qui est une cérémonie du thé qu'on verra très complexe et très bien mise en valeur par la réalisation, ouais. Et j'imagine très précise sur les bons gestes, etc.
Bah, en vrai, enfin, tu vois, elle est, c'est une très bonne scène de, une très 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 bonne scène de cérémonie de thé. Je me suis renseigné et du coup, enfin, vraiment, il y a les différents ustensiles, il y a le chawan qui est le bol à thé, il y a un gros plan sur le ishaku qui est la louche avec à la fin. Un nodule qui permet de prendre le thé pour transférer
un nodule ou un nodus
pour transférer l'eau du bol
là il faut que tu sois précis parce que même notre pote Justin peut devenir fou
pour transférer l'eau du pot en fer vers le bol. Bref, en vrai la scène de thé est très bien. Je me suis renseigné sur pourquoi est-ce qu'à un moment il y a quand même, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 6 ou 7 là, sur le quartier des plaisirs, il y avait cette scène où Lady Jean boit un thé avec Mariko et Fuji qui viennent négo le prix pour
les tasses. Voilà. Les tasses comme ponctuation.
Et il y avait tout un truc où il y avait un gros plan de caméra sur la façon dont ils tournent leurs tasses. Et là, on a retrouvé un petit peu ça avec Mariko, pas avec Buntaro. Il y a que Mariko qui tourne sa tasse dans l'autre sens. Et je crois qu'il y a une signification parce qu'elle le tourne dans le sens opposé à quand elle le tournait face à Lady Jean. Et je pense que du coup c'est l'inverse d'une marque de respect. Mais après là,
pour montrer qu'elle se ferme à lui, quoi.
Voilà, pour montrer qu'elle se ferme. Et normalement t'es censé exposer le motif. Après là il y a pas de motif sur la tasse. On en parlait dans l'épisode 7, mais t'es censé exposer le motif vers le reste des convives en signe de respect.
Mais là c'est un tout autre type de vaisselle. C'est pas du tout les mêmes règles. C'est pas la même signification.
C'est pas tout à fait voilà le même type de vaisselle. Mais en tout cas par contre le reste de la scène est très bien. Il y a vraiment les tatamis, tu vois, il y a vraiment, enfin, toute la scène de cérémonie de thé est très cool. Je trouve ça un peu genre, je me suis renseigné sur est-ce que ça existe vraiment, mais j'imagine que oui.
La cérémonie du thé.
Mais ils ont une putain de plaque chauffante intégrée dans le sol. Ils ont un trou et dans le trou ça chauffe. Mais attends, mais t'imagines? C'est une.
Sachez que cette année j'ai eu la joie de voir Valentin, qui a
actuellement
bientôt 27 ans, découvrir le concept de pirade.
C'est une dinguerie.
La pirade, c'est quelque chose que je pense l'être humain a masterisé assez tôt dans son existence, puisqu'il s'agit de faire chauffer une pierre, voilà, tout simplement. Et après, tu mets de la viande dessus et ça cuit. Incroyable.
Oui.
Valentin a découvert le concept de pirade et il était là, mais quand la pierre, elle est plus chaude, j'en demande une autre et il me ramène une pierre plus chaude. Et je suis là, oui, c'est un restaurant qui fait des pirades, c'est le concept. Donc, voilà, les ustensiles qui chauffent viennent dans une myriade de formes et de couleurs qui ne cessent de te surprendre.
Mais moi, je trouve ça fou. Et donc, effectivement, ils sont assis. Ils sont d'ailleurs assis dans la position Seiza, qui est la position de prestige. Excuse-moi, pardon, mais il faut être précis. Sinon, Justin, il va venir et il va me dire encore « t'es pas précis ». Et donc, ils boivent un thé. Et au début de cette scène, en fait, il y a un peu un... Comment dire ? Jusqu'à ce moment-là, je trouve, ça fait un ou deux épisodes qu'on tente de nous humaniser Buntaro. Qui quand même, on va le rappeler pour les gens qui nous écoutent, je suis désolé, le mec bat sa femme. Buntaro est quand même globalement, et reste, je suis désolé pour le terme, un gros con. Voilà, il reste un gros con.
Oui.
Mais on veut nous le présenter à ce moment.
Une
personne complexe, et une personne, et voilà. Et c'est aussi ce que la série fait. Elle nous le présente comme une personne complexe et une personne qu'on humanise de plus en plus depuis qu'on nous l'a présenté comme vraiment un con.
Et qui, comme tout le monde dans ce monde-là, est quand même probablement polytraumatisé, quoi. C'est aussi des personnes qui ont eu des vies avec un niveau de violence, de cruauté et de froideur qu'on a du mal à se représenter, quoi.
Et du coup, ça fait effectivement du bien d'avoir ce moment de douceur où Mariko et lui parlent en poème. On voit d'ailleurs dans les sous-titres que donc, c'est italisé et ils parlent en poème traditionnel ou en extrait de...
En haïku.
Non, alors justement, c'est pas des haïkus justement. Mais c'est, j'imagine, soit un extrait d'histoire ou de chanson traditionnelle ou de voilà.
Non, je pense qu'ils improvisent comme quand Yabushige avait demandé à Omi fais-moi un poème sur la mort de l'homme dans le chaudron, hein, on se souvient épisode 1.
Oui.
Je pense que c'est de l'impro et que c'est une façon de c'est un peu comme s'ils jammaient ensemble, tu vois, s'ils étaient musiciens. Et
ouais,
qu'il y en a un qui lance un truc et l'autre qui improvise dessus. Et je pense que c'est une façon de se dire des choses sans se les dire et de c'est comme la cérémonie du thé, quoi. Il y a un truc de raffinement et de tu respectes l'autre en lui offrant un art que tu as travaillé, qui est l'art d'improviser des poèmes, voilà, comme ça au quotidien. Par exemple, je ne saurais le faire, mais on sent que ça s'est entraîné, quoi.
Et ben ouais, je pense qu'il y a, il y a ce truc de, j'aime bien cette théorie de dire les trucs sans se les dire vraiment. Ils vont pas aller frontal dans les émotions.
Ils sont toujours derrière leur clôture. Hein.
Voilà. Bah, t'es très forte. Franchement, t'es très forte. Et donc il y a ça et cette scène où bah on se prend un peu, on est là, ouais, bah, peut-être qu'ils vont se faire les petits bisous, peut-être. Pas du tout.
Mariko, elle met un
parce que
stop, mon gars.
Buntaro, il est là. Il s'est mis en position Sega. Il a fait le thé. Il a mis le thé dans le...
Il a tout bien fait.
Il a tout bien fait. La cérémonie, elle était impeccable parce que même Mariko lui a dit, ta cérémonie était impeccable.
Elle lui a dit, t'as d'être ça.
T'as d'être ça, mon pote. Et donc Buntaro, il se dit, vas-y, bam, c'est maintenant, c'est ma chance. Demande en mariage. Non, pas du tout.
Lui, c'est vraiment un nice guy. Il croit, il a été gentil une fois. Il a mis une pièce dans la machine.
Ouais, non,
bam,
grave.
C'est bon, la meuf, elle va l'aimer. T'sais, gars, t'as et fait deux, trois autres trucs. Hein.
Si vous vous souvenez de la storyline de Mariko qui était exposée dans la scène où Buntaro était bourré peu avant qu'il la batte, là où il a jeté les flèches, etc. Et tout.
Le dîner.
On nous a présenté le chantage et la position dans laquelle...
J'aurais pu l'appeler un dîner presque parfait. Non mais je l'ai appelé la guerre des restos, c'était bien aussi.
La guerre des restos, c'est bien. Il y a donc ce chantage. En fait, Mariko veut mourir, hein, rappelons-le. Et en fait, c'est Buntaro, de par leur mariage et de par la pression qu'il a sur elle, qui décide du moment où elle pourra mourir ou non, le moment où il va lui accorder le seppuku, lui accorder le suicide. Et donc là, lui, il sent que son dernier levier pour... j'y vais par étapes. Ils boivent le thé, tout le monde est content, machin et tout. Buntaro, d'un coup, il se dit, tu sais quoi ? Vas-y, on se suicide à deux. Genre, tu veux pas, toi là.
D'un coup, ça devient notre truc.
Toi là, tu te suicides, et moi, je me suicide, et on va ensemble dans le truc de l'après, et on le fait à deux, quoi. Et là, Mariko, elle boit son petit thé en mode. Comme ça.
En mode Fujisama.
Elle fait. Ah, très bon thé, ta cérémonie était impeccable.
Elle lui thé assaisonné de tes larmes.
Une phrase, elle lui dit. Donc là, ils sortent des poèmes, hein, ils parlent plus en poèmes, machin et tout. Et donc lui, il lui dit, viens, mourons ensemble. Je suis prêt à t'accorder le seppuku et je suis prêt à... Voilà. Ce qui est en vrai un gros step de fou parce que depuis le début de la série, il ne voulait pas. Et
ouais, mais c'est aussi genre, ok, maintenant que toi, t'as plus rien à perdre, tu veux le seppuku, donc tu veux qu'on meure ensemble.
C'est un move de merde. Et encore une fois, Buntaro, Koda.
Comme quelqu'un lui dira plus tard... Maintenant, tu vas voir ce que ça fait que d'être coincé.
Exactement. Et Mariko lui claque cette phrase qui, je pense vraiment, restera l'une de mes phrases préf de la série. Je préfère vivre 1000 ans que de mourir maintenant avec toi. Le niveau de violence après avoir bu le thé, Buntaro là.
Il aurait dû prendre un whisky.
Non, mais là, ouais, Buntaro, je suis désolé. Tu sais quoi, barre-toi. Genre, en fait, juste va-t'en.
Ouais, ça rentre au panthéon des bons gros râteaux de fiction avec dans Titanic quand Cal il essaye de récupérer Rose et qu'il lui dit
c'est qui Cal dans Titanic?
Cal c'est le mec de donc Titanic, il y a Rose David Buketer, elle est riche,
oui.
Elle rencontre Jack Dawson, il est pauvre, mais à la base Rose elle est avec Caledon Hockley, elle est censée se marier avec lui, sa fiancée, et lui il est riche et elle est avec lui parce que la famille de Rose elle est en faillite et genre c'est aussi pour son statut social, pour sauver le statut social de la famille. Et Caledon, du coup, il voit pas d'un très bon œil que Rose, elle s'entiche de Jack Dawson qui possède environ 2 dollars et un carnet à dessin où il dessine des meufs à poil.
Oui.
Donc à un moment, il la chope, il lui dit « Vous voulez vraiment être la putain d'un rat d'égout ?» Et elle le regarde et elle lui dit « Je préfère être sa putain que votre femme. » Et après, elle lui crache dans l'œil. Et bah, Mariko, elle a vu ça, elle était là, elle est passée en Rose David Buketer Energy direct.
Attends, mais elle lui crache dans l'œil dans Titanic ?
Ouais, parce que Jack Dawson, il lui a appris à cracher.
Dans l'œil des gens.
Bah non, mais du coup, le gars, il veut pas la laisser partir, elle lui crache dans l'œil.
Et donc, du coup, avec Buntaro, le rap...
Bah, Mariko, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle vient de cracher dans l'œil de Buntaro, shogun.
Ouais. Enfin, en vrai, je suis d'accord.
Tu penses qu'elle avait répété la phrase ? Genre, tu penses qu'elle est arrivée, tu sais...
Mariko, le personnage.
Comme un boxeur, tu sais, elle est arrivée en mode... Et là, je vais lui dire... Si on me suicide ensemble, je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire, je préfère vivre 1000 ans que mourir avec toi. Et là, je fais peut-être, elle en a parlé à Fuji, elle a dit, et là, je lui dis quoi ?
Vas-y.
Mille ans, mourir avec toi, jamais. Alors, je lui demande de me laisser mourir depuis. Il va briller.
Il va péter un câble.
Bravo, les femmes.
Et en vrai, ouais, très bonne scène de Mariko. Je pense qu'effectivement, le personnage de Mariko, alors sans dire qu'elle a répété cette phrase au mot près, en fait, ça fait plusieurs épisodes et plusieurs moments, même durant le trajet vers Edo, où Blackton lui dit « Moi, j'ai envie que tu restes ». Elle est tiraillée entre deux obes, en l'occurrence celui de Blackton est plutôt intéressant. Non, mais surtout, elle est... je pense qu'elle elle s'interroge sur sa place dans tout ça, sa place auprès de Buntaro, et surtout, Buntaro n'a plus d'emprise sur elle. Et je pense que c'est un truc qu'elle voulait lui dire depuis très longtemps. Et là, elle profite de le faire. Et elle voit que Buntaro est faible. Il a moins d'ascendant. Et en fait, elle en profite. Et elle a raison de fou. Et ouais, non, c'est moi perso une scène que j'ai adoré, la scène du thé.
Oui, c'est highlight de l'épisode avec une autre scène un peu plus
avec
tard,
une autre scène un peu, ouais, un peu plus loin.
Je pense qu'il faut juste pas oublier que dans l'évolution de Mariko, certes, il y a la rencontre avec Blackthorn et la suite Londonian Dick, mais aussi et surtout, en fait, elle a de nouveau un but, puisqu'il y a deux épisodes, Toranaga lui a dit. Oui. Ton père t'a c'est laissé vrai. En vie volontairement, ça fait partie du plan, donc maintenant tu peux participer à sa vengeance et m'accompagner dans mon plan. Et peut-être que Toranaga il a menti quand il lui a dit ça, juste pour qu'elle ait plus envie de mourir.
Oh, attends.
C'est possible. On sait pas, c'est source Toranaga. Quand est-ce qu'il dit la vérité?
Mais après, Toranaga il fait l'entremetteur depuis le début là. Il y a un moment, il lui a dit Buntaro, oui. Tu te casses 7 jours,
mais
toi tu vas accompagner.
Peut-être qu'il a fait l'entremetteur parce qu'il était là. J'ai besoin que Mariko elle ait envie de vivre et qu'elle ait envie de se battre pour qu'elle m'aide dans mon camp. La tub à Blackthorn, ça n'a pas suffi, parce qu'elle veut toujours se suicider. À chaque fois que je lui parle, elle me dit sinon je peux me suicider. Je lui dis non, toujours pas.
Non.
Donc, je vais peut-être lui donner une nouvelle raison de vivre, qui est venge ton père, voilà, tu as un but de samouraï, ta vie n'est pas vaine, etc. Et donc, bah, quand Buntaro il lui dit time to die, elle est là, ah non, mais j'ai arrêté ça.
Non, c'était il y a deux semaines. Ah non, j'ai
plus
envie,
ouais, non, c'est plus mon truc. Donc, de base, il n'a pas l'info. Mais,
non, mais c'est, marrant,
c'est aussi pour ça qu'elle veut vivre.
Ça renforce un peu ce côté, depuis le début, cette Toranaga qui tire les ficelles, quoi, tu vois. Et moi, j'aime bien que ça.
Et on aime bien. Une ficelle que Toranaga ne tire pas spécialement, c'est celle de l'équipage de Blackthorn.
Alors, ouais.
Puisqu'il est l'heure pour notre English préféré de retrouver enfin.
Bah,
ses camarades d'infortune.
Il profite d'être à Edo pour
bah,
aller.
Il passe les voir quand même.
En fait, il y a un moment dans l'épisode où on lui dit ton équipage est là. Et donc lui, il est là en mode bah vas-y, je vais aller me bourrer la gueule avec eux, tranquille et tout.
Normal, tu revois les potes.
Et il arrive dans cette ruelle de Edo. D'ailleurs, petit point ruelle.
Nous avons un point ruelle.
On a un point ruelle.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sachez que l'urbanisme tel qu'il est présenté dans Shogun, alors encore une fois, je suis ni historien, ni urbaniste, ni expert, hein, vraiment, voilà.
Ni historien de l'urbanisme
japonais, mais est quand même néanmoins très fidèle à ce qu'on pouvait avoir à l'époque, qui sont ces villes avec des rues très étroites où vraiment, si tu fais 2 mètres, tu peux voir au-dessus des murs. Et bon, moi, ça me marque dans la série parce que je suis là. Mmh. On dirait une ville factice.
C'est
tout petit. Et effectivement, c'est très proche de ce qu'on pouvait avoir, du moins de comment on perçoit ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Et je trouve les villes très réussies dans Shogun. Mm-hmm. Voilà, c'était le petit point ruelle. Et donc, il arrive dans cette ruelle et il voit. Globalement, ils sont pas beaucoup, hein, donc il voit un gars qui parle anglais.
Ils sont plus que 6.
Ouais,
ils étaient 12 et ils sont plus que 6.
Il voit un gars qui parle anglais à Edo. Il se dit, bon, bah, soit c'est le gars avec son chapeau qui cache sa calvitie, soit c'est mon pote.
Non, mais surtout, il le sent, à mon avis. Il sent l'odeur du gars, il est là, oula.
Et en plus, le gars est en train de harceler une meuf en mode, vas-y, viens, on ken et tout. Il est bourré, enfin bref. Il est. On sent qu'il, lui, il est resté entre tradition, pas modernité. Il est resté entre tradition et tradition.
Est-ce que c'est pas un peu quand, des fois, quand tu reviens dans la ville où t'as grandi et tu crois les gens avec qui t'étais pote?
Exactement,
au collège, t'es là, oh waouh.
Lucas, là, avec qui j'étais allé au collège, il est parti.
Ah non, Lucas, il a pris une balle.
Ah non, mais Lucas, il est parti en cours. Lucas, il vote Rassemblement National, donc bon.
Ok, Lucas, c'est pour toi, tu la mérites.
Bref, et donc effectivement, lui, il croise un peu son Lucas.
Ouais, alors que lui, il est bien habillé et tout. Il est de gauche, il est déconstruit. Et là, bam, il voit Lucas en train d'arcer. Harceler une meuf japonaise, t'es là, bah Lucas, qu'est-ce que tu fais?
Et justement, il y a ce moment.
En même temps, t'es pas surpris.
Bah non, mais pas surpris et tout, bah bon, bref. Il y a ce moment où Blackthorn arrive et il se demande en fait. Il sait qu'il voulait voir son équipage, il voulait retrouver. Enfin, depuis le début de la série, il est là en mode Give me my ship and my men! Et là, en fait, au moment où il a face à lui, justement, one of his men, il se retourne.
Regret.
Il se retourne et il le fait pas. Et il se dit, bah en fait, je pense à ce moment-là, moi je perçois ça comme Blackthorn se rend compte qu'il a évolué, qu'il est peut-être plus de ce monde, qu'il a rien à gagner à retrouver son équipage parce qu'ils sont trop différents. Et donc il se tourne. Mais en fait, désolé frérot, encore une fois, tu es la seule personne anglaise, vous êtes les deux seuls anglais à 600 km à la ronde. Que t'es le dos tourné, que t'es une cagoule.
Bah,
que
surtout
t'es...
qu'il est massif en plus que son ouais. Jarvis, quoi. Enfin, pour le coup, il dépasse tout le monde d'une bonne
C'est aussi le seul qui a une coiffure normale et pas un Sean Maguet avec des ballons de foot dans sa tête. Donc, forcément, quand il y a son gars de l'équipage là qui était en train de.
Son Lucas.
Son Lucas qui était en train d'harceler une meuf, qu'il le voit partir de dos, il est là en mode. C'est toi, Blackthorn. Et Blackthorn, il fait vraiment, il fait semblant de pas se retourner au début. Il est là, moi, je m'attends, et après il fait, oui, c'est moi.
Et donc, ça c'est vraiment moi quand je croise les gens au supermarché.
Et t'as pas honte quoi
À côté de chez mes parents. Si je croise quelqu'un avec qui genre j'étais en cours et tout, je vais aller dans un autre rayon.
Moi non, en vrai, je pense que j'irai leur parler. Bah, sauf si j'ai un rouleau de PQ.
Mais tu es une meilleure personne que moi.
Non, c'est juste. Bon bref. Et donc, il lui dit, Blackthorn, retourne-toi. Et donc l'autre il se retourne. Et ils parlent un petit peu, ils discutent, tendu, déjà, il y a effectivement une forme de jugement, comme Father Martin l'avait dit. Peut-être que tu aurais pas dû mettre le kimono, tu as mis le kimono, mais tu regrettes maintenant.
Après, je pense qu'il avait plus son jogging 3 bandes, tu vois, il l'a perdu.
Non, ouais, il a perdu son Adidas. et donc, il parle du fait que, son membre d'équipage à Blackthorn lui reproche d'avoir des plans. Pardon, son prénom, c'est.
Lucas.
Je t'aime trop. On va l'appeler Lucas. Il s'appelle pas vraiment Lucas.
Non, j'ai pas son nom, je m'en fous. Il s'appelle Lucas maintenant.
Ok, maintenant on va l'appeler Lucas. Et donc Lucas, il lui reproche.
Ce con de Lucas qui vote Rassemblement National.
Il lui reproche de pas être venu le chercher. Il lui reproche de s'être installé, maintenant d'être à ta moto, d'avoir des plans. Il
oui, c'est un peu genre ça va. T'as pas l'air de trop te faire chier.
Ça va quoi.
On t'a un peu attendu quand même, mais t'as eu l'air d'avoir pris ton temps.
Ouais. Et il lui reproche aussi d'avoir ses
plans. Et encore, il a pas vu Mariko, hein, parce que.
Là.
Il a bien pris du bon temps. Une fois.
Non mais toi tu fais ces vannes là, moi sinon je les fais pas hein, parce que moi je suis cancel après. Donc je te laisse les faire.
Vas-y, je te laisse raconter, je vais juste me chercher à boire.
Vas-y. Et donc effectivement, son Lucas lui dit putain, tu te prends du bon temps, vraiment bravo. Et vient finalement ce moment où donc ils s'engueulent machin, et on sent qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde. Blackthorn, il a évolué, Blackthorn est un homme nouveau. Et l'autre, son Lucas, l'alcool aidant, va lui faire une remarque sur son kimono. Genre en mode, frérot, tu comptes garder le kimono? Et Blackthorn est là en mode, bah moi j'ai les couilles à l'air, c'est trop bien mec. Et son pote.
C'est exactement ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on a un extrait de la série sur Disney Plus là qu'on vient de passer.
Bah quand tu me demandes de décrire, moi je décris, je suis désolé. Et donc il lui dit, enlève ton kimono, frérot. L'autre il dit, bah non, attends, c'est trop bien. Et l'autre il lui redit, enlève vraiment ton kimono là. Et l'autre il dit, mais non, c'est trop bien. Et après il se tape.
Ouais.
Et donc il se tape.
Il se tape.
Mais ils se tapent comme
pas très amicalement quoi.
Ils se tapent comme des Anglais qui se sont pas vus depuis 6 mois et
donc
qui ont
un bourré.
Ouais, et je pense que l'autre il est sur un grammage d'alcool dans le sang qui se compte en si votre grammage se rapporte à votre plumage, vous êtes
le plus ivre des hôtes de ce bois.
Lui son grammage Yabushige, son grammage se rapporte également à son plumage.
Tout à fait.
Désolé, on digresse dans ce podcast. Hein. Et donc il se tape, sauf qu'en fait, désolé, mais il y a un élément que l'autre, que le Lucas n'a pas pris en compte, c'est que Blackthorn, il a 3 cordes à son arc, il a 3 trucs dans son arsenal. Il fait des nuits de 8 heures, incroyable. Il prend des douches et il mange autre chose que des croûtes de pain. Donc en fait, désolé, j'irai pas taper un gars qui fait des nuits de 8 heures, se lave et ne mange pas. Enfin, mange d'autres trucs que
il
des croûtes
de pain.
Il est
à ta moto, le gars. Il avait un mec préposé au caillou du jardin.
Il a un garde du corps, en fait. Quand
il attend de faire des tractions.
Quand il se... Ouais, il fait
en
des
tractions. En plus, à mon avis, depuis qu'il a vu Buntaro tirer à l'arc, il s'entraîne un peu, tu vois.
Ouais,
il est là.
Ouais.
Et que Yabushige, il lui a fait, viens, je vais t'apprendre l'épée, MDR.
Et
je pense qu'il peut-être, il s'est remis un peu à l'entraînement, quoi.
Il se remet un peu à la salle. Et il a repris un abo Basic Fit.
Et aussi, c'est genre un marin anglais. Bien sûr, il met des patates de forain, le gars.
Et le problème, c'est que, Lucas, il s'est attaqué à plus violent que. Enfin, plus en forme et plus violent que lui. Un peu trop violent. Il y a un moment où j'ai maté Blackthorn et j'étais là. C'est bon, il est par terre. Tu peux arrêter.
Là, c'est un meurtre, monsieur.
Ouais, là, ouais. Et donc, le mec est au sol, le Lucas. Et en fait, Blackthorn, il s'énerve de fou. Et il le tape.
N'est-ce pas l'ancien lui qu'il déteste aussi via cette détestation de ce miroir déformant?
Je sais pas si c'est l'ancien lui. Je pense justement que c'est. Attention, ça va être très métaphorique. Je pense que Blackthorn, lorsqu'il tape Lucas, il ne tape pas vraiment Lucas. Blackthorn tape l'ancien Blackthorn.
C'est ce que je viens de dire. Elle, je te déteste.
Je pense que la violence ne résout rien, mais dans cette scène, la violence permet de résoudre un pan scénaristique différent et de tourner une page de l'histoire. Non, bref, en fait, enfin, je pense que ouais, Black Thorn, ouais, comme tu l'as dit, pardon, moi je l'ai dit avec des mots moins savants. Toi, t'as dit miroir déformant en mode boomerang, boomerang.
Bien sûr, Narcisse, tout ça.
Non, mais ouais,
oui,
en fait,
il fait ce que j'appelle une Batman, c'est-à-dire ouais. que tu peux à peu près t'auto-persuader en disant je l'ai pas tué, mais il y a un moment où
ouais.
pour cette personne il y a un avant et un après cette confrontation qui va être très très sensible, je pense.
Bah lui,
c'est-à-dire
il a plus de dents.
Peut-être il est mort. Quoi.
Je pense que Lucas est dead. Il avait pas beaucoup de dents, là il en a encore moins. Donc bon, déjà qu'il arrivait pas à pécho apparemment, ça va être là plus compliqué pour Lucas. Petit point, parce que quand il le tape, il le tue presque, ou il le tue carrément, on sait pas.
Disons que tu es toi-même une forme d'expert du noblard, de la bagarre, plein de types de bagarres, MMA, sambo, boxe, voilà.
J'ai fait des années de sport de combat.
Donc tu as l'œil pour la castagne.
Bon là, je pense que le gars est dead, il y a pas de...
Genre, c'est un avis médical.
J'ai l'œil médical, et ouais, là, le gars...
Moi, j'ai regardé tout urgence, je pense qu'il est dead.
Ouais, il est dead. Mais surtout, deux points importants, il y a le garde du de enfin l'escorte de Black Thorn, puisque quand tu as ta moto tu te balades pas à Edo avec ta slip et ton slip et ton kimono sans tes épées et tout. Il a un garde du corps qui le suit. Le garde du corps attend qu'il ait fini de le taper, vraiment qu'il ait fini de l'éclater au sol, pour lui dire frérot viens là, on s'en va, on se casse,
c'est bon, t'as fini, encore un petit, ouais,
preuve
fini.
Que selon moi il a pas non plus le droit de taper tout le monde, même si c'est des Anglais et que globalement les autres gens s'en foutent. Il a peut-être pas le droit de tuer quelqu'un. Et autre truc, et moi en fait ça m'a vraiment saoulé quand il l'a fait, et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui l'ont remarqué et que ça saoule autant que moi. Tu tapes quelqu'un dans la rue, tu le tues quasiment, le garde du corps il est là en mode viens frérot on s'en va, bah hop tu prends ton manteau chéri on s'en va. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend son manteau, il le met sur le gars. Il a mis son kimono bleu de Hatamoto de mort sur Lucas qu'il a tabassé à mort. Et désolé mais je suis sûr, mais alors peut-être que c'est moi qui... C'est une guêpe,
c'est
bon. Ou c'est...
C'est une mouche.
C'est une mouche.
Il y a un insecte volant dans notre salon, car comme il fait chaud, on a ouvert la fenêtre.
Et moi, je suis phobique des guêpes. Mais bon, c'est le podcast de la digression aujourd'hui. Et il jette sa veste sur Lucas qui vient de tabasser. Je suis persuadé, moi, que dans l'épisode 9 ou 10, ça va leur tomber dessus. Qu'il y a une sorte de système judiciaire à Edo qui va peut-être lui tomber sur la gueule, et que Toranaga ou quelqu'un d'autre vont le défendre. Peut-être même... Buntaro ou Yabushige, je ne sais pas, mais tu vois, ce serait pour moi, c'est un élément scénaristique qui peut avoir son importance, la veste. Peut-être pas du tout, peut-être que je vois trop loin. Mais...
Non, mais c'est vrai que le Father Martin avait attiré l'attention dessus en disant est-ce que tu vas y aller habillé comme ça. Le mec lui a dit enlève ton kimono. Et enfin, en tout cas, il y a plusieurs moments dans l'épisode où on a un point de focal sur cette veste qu'il porte et
c'est
qui
la,
est
c'est la seule
le symbole
qu'il a
de plein de
pourquoi
choses.
Tu... Alors après, on se doute que c'est toi qui l'as tabassé quand même, mais bon, pourquoi tu vas laisser ta veste sur les lieux du crime?
Moi, j'ai une lecture très différente, et c'est pas vraiment lié à... Parce que j'ai lu le bouquin, parce que dans le bouquin, ça se passe pas comme ça. En fait, ils retrouvent ces hommes beaucoup plus tôt. Ils vivent dans... Je crois qu'ils sont dans le village, toujours à Hajiro, juste qu'ils sont plus dans le trou. Enfin, en fait, ça commence pas... Ils les foutent pas dans un trou dans le livre.
Ah, visance.
Et, enfin, pas tout de suite, en tout cas. Pas avant qu'il y en ait qui se comportent mal. Ils leur filent un genre de maison de pêcheurs, et genre, il y a des... Ils ont des prostituées et tout, enfin, ils vivent un peu leur best life, enfin, vie de merde parce qu'ils sont pauvres et ils passent leur temps à picoler, à avoir des prostituées qui sont des filles du village, mais ils sont pas mécontents, je crois pas qu'il y a le côté, la moitié sont morts et tout, donc les retrouvailles avec Black Thorn sont pas aussi violentes en tout cas, c'est plus Black Thorn qui est dégoûté, mais dans mon souvenir il n'y a pas de grosse bagarre ou quoi. Donc ce que je vais dire là, ça tient pas à... J'ai lu le livre. Mais je pense... Moi j'ai compris le truc du garde du corps qui lui dit on s'en va et du fait qu'il a sa veste. En sachant en plus que le seigneur de Edo c'est Toranaga, donc en fait il y a une justice c'est Toranaga, et que Black Thorn est quand même plutôt dans sa team, je pense que en tant qu'Atamoto, tu peux tuer un Obod. C'est pas grave. Tout comme on a vu Yabushige qui a décapité un gars dans son propre village, épisode 1, parce qu'il peut, parce qu'il y a des vies qui valent plus que d'autres. Et étant Atamoto face à une victime qui est un no-name étranger en plus, je pense qu'il y a il y aura aucune conséquence parce que c'est littéralement légal quoi. Je n'en suis pas sûre, hein. C'est juste que du coup je me suis pas dit le garde du corps il lui dit oulala c'est chaud, c'est plutôt genre ok t'as fini on s'en va, vraiment, genre, bah, je sais pas, t'as laissé tes déchets traîner, bah, on s'en va.
C'est littéralement pareil.
Et il laisse sa veste, déjà en marque de respect, je pense, pour pas laisser le semi-cadavre, voilà. Ah, non, et parce que peut-être, alors, je sais pas si Black Sword le sait, c'est qu'il a le droit ou pas, mais peut-être que ça sera pas grave, ou quelqu'un juste lui ramènera sa veste en lui disant, bah. Voilà, on te ramène ta veste, c'est pas grave que t'aies tué ton pote, quoi.
Il a la même énergie que Christian Bale dans American Psycho qui tabasse des sans-abri.
Ouais.
Et son,
ouais,
et son garde du corps qui lui dit bon, c'est bon, on s'en va là, t'as fini.
Oui.
Sauf
oui.
que lui, c'est pas légal. Mais ouais, en fait, c'est intéressant parce que je pense que les deux sont autant probables, quoi. Il y avait cette scène où Buntaro l'avait disrespect dans sa maison, dans son domaine, quand il avait battu Mariko et que Black Thorn est venu à sa poursuite. Et tu sais, j'avais toutes ces interrogations de est-ce qu'à ce moment-là précis, Black Thorn avait le droit de tuer Buntaro et tout. Et je pense qu'il y a un côté, quand t'es sur ton domaine et que tu te fais disrespect, peut-être que t'as une part de tu peux tuer la personne ou voilà, enfin bref. Oh, t'as fait tomber le banc. Oh là là, incroyable. Il y a Mimi qui vient de. Il se passe des choses dans cet épisode, vous ne les voyez pas, mais. Mimi a monté un bonsaï en Lego.
C'est un cerisier du Japon.
Oui, mais c'est un
bonsaï,
mini.
Voilà. Version Sakura en Lego, 800 pièces que ta 800... maman m'a très gentiment offert.
Tout à fait, ma maman qu'on salue. Mais cerisier qui est derrière toi et que tu viens de pousser avec tes cheveux.
En m'étirant et en attachant mes cheveux, je viens de manquer d'éclater le truc que j'ai mis quand même.
De fou.
2h30 à faire.
Ça aurait été un
happening,
j'imagine.
Des podcasts sur Shogun, bien évidemment.
Et donc, ouais, donc il y a ce truc où peut-être Buntaro avait le droit de se faire tuer, je pense, quand il avait disrespect Black Thorn dans son fief personnel. Autant là, je ne sais pas, effectivement. Peut-être que ça peut être l'inverse, tu vois. Peut-être même que, imagine, épisode 9, Toranaga lui-même lui ramène sa veste. Imagine.
Waouh, je pense qu'il a autre chose à foutre.
Et Black Thorn, il croit qu'il va se faire engueuler. Et lui, il est en mode, ah, pardon, maintenant. Et en fait, non, en fait, Toranaga lui dit, bah non, mais tiens ta veste. Parce que...
Après, il y a une troisième option un peu hybride qui, du coup, ça compte pas trop si c'est légal ou pas, qui est que les autres membres de l'équipage, du coup, ils sont quand même 5, vont finir par tomber sur soit leur pote très amoché, soit le cadavre. Peut-être via le kimono faire le lien avec Black Thorn ou je sais pas. Et peut-être, et sachant que bah, le marin, il était Lucas. Il était aussi en. Il y a ce soupçon, déjà où il pensait qu'il était mort, finalement non et tout. Il y a ce soupçon de si on est dans cette galère, c'est parce que t'as été trop ambitieux. Tu as emmené au Japon, au Japans contre vents et marées, et il doute un peu du truc de non, mais j'ai foncé parce qu'on avait les Espagnols au cul. Il commence à vraiment douter de lui.
Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on avait les Espagnols derrière nous
Est-ce que c'est vraiment vrai que le père de Mariko, il voulait qu'elle continue son combat? We might never know.
Oui.
Et du coup, peut-être que l'équipage va se liguer contre Black Thorn et peut-être via, tu vois, aller voir les Portugais, leur dire, voilà, on peut vous aider contre lui. Enfin, en tout cas, essayer de lui...
Non, mais c'est possible.
Pas forcément
c'est
de lui tomber
possible.
Dessus dans la rue, mais de, en tout cas, d'être une nouvelle pièce dans la balance qu'on n'avait pas forcément vu venir.
Grave.
Mais je sais pas, voilà, si ce truc aura d'autres conséquences que juste montrer que Black Thorn en a bien fini avec sa vie de marin londonien qui veut juste rentrer chez lui, quoi.
En tout cas, Lucas, il se fait hagard de fou.
Mauvais mardi. Hein.
Lucas, là, je pense qu'il va boire de la soupe à la paille.
Ouais. Et juste après ça, Black Thorn, du coup, qui se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible pour lui,
là, c'est chaud.
Il va voir notre gars préféré. Et son ennemi numéro 1 depuis l'épisode 1, mais avec lequel il continue à entretenir une forme de respect amical.
Ils sont plus vraiment ennemis.
Bah, faut voir, mais quand même, souvent, quand il le voit, il pense au chaudron, tu vois. Il a « Ah, t'as quand même fait bouillir, mon pote. » C'est le genre de truc où, dans une amitié, ça prend du temps de surmonter l'étape « T'as fait bouillir
bah, j'avais,
un de mes collègues. »
Ouais, j'avais un pote, à un moment, je pouvais pas m'empêcher de le voir dans un chaudron, tu vois, c'est chaud. Enfin, ça met du temps, à part
Omi,
ça.
Omi lui a pissé dessus
et
tout,
c'est bon.
Il y a des bails. Mais Black Thorn se retrouve à aller voir Yabushige pour lui proposer quoi donc ?
Pour lui proposer de... Attends, mince, j'ai oublié. En gros, de prendre le large avec lui et de
faire un coup d'état, tout simplement.
De faire un coup d'état. Et en gros, il me semble, si j'ai bonne mémoire, que globalement, le texte, c'est « Bon, bah là, frérot, Toranaga, il va se rendre. C'est nul. Je sais que t'as pas l'air d'avoir envie de te rendre. Tu portes un truc avec des plumes de faisan, là. Donc, t'es un gars qui aime le rock'n'roll. T'es un peu le... » Alors, Yabushige, c'est un peu le Philippe Manœuvre de cette série. C'est un peu le
film.
C'est un peu
le. C'est le rock.
Salut les kids, vous aimez le rock and roll. Et donc Buntaro, non pas Buntaro, Black Thorn va voir Yabushige et lui dit peut-être que comme moi, t'as juste pas envie de mourir parce que ton boss il a décidé de se rendre.
Et avec Mariko en interprète.
Avec Mariko,
il y a Mariko et Omi qui sont présents quand même pour cette discussion très 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 risquée. Hein. C'est vraiment Si on allait trahir
de fou,
le gars que s'il éternue de travers sur nous, il peut nous décapiter.
Et on l'a déjà vu, enfin il y a cette emphase qui est mise dans la série mais qui est aussi réelle, hein, des pratiques de l'ère Edo et du Japon féodal en général. Enfin, il y a tout ce côté administratif, ce côté loi, ce côté en fait il court un très grand risque en allant même avoir cette discussion, et Yabushige courrait un risque encore plus énorme en trahissant. Enfin, même
épisode 1, tu parles mal en réunion.
Ouais.
Même quand t'es un gars de Toranaga depuis longtemps, c'est beaucoup toi, ton bébé aussi.
Non mais c'est
beaucoup
c'est
tout ciao, le monde.
C'est ciao.
Remember d'où elle vient, Lady Fujisama. Hein. Et d'ailleurs, elle est pas dans cet épisode, elle m'a manqué. C'est le seul point noir.
On va parler de Fujisama.
Ah, très bien.
Et donc, il propose à Yabushige machin. Yabushige. Au début, on sent qu'il est là, et après il dit non. Il dit non deux fois, et il dit même tellement non que il y a Mariko qui à un moment voilà qui lui traduit non là ce serait une trop grosse offense. Il dit non, il refuse poliment ton
offre. Oui,
Beb,
je lui pardonnerai de par ser barbare, donc je lui pardonne, mais là c'est vraiment chaud. Et en même temps, on sait que Yabushige, depuis le début, à chaque épisode, il est là. J'arrive pas à croire que je vais mourir pour ce gars.
Oui.
On sait qu'il joue sur 1000 tableaux. On sait que Obi, c'est pour le coup le katana le plus affûté de l'armurerie.
Donc, il
y a toujours ce truc de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on pense vraiment, tu vois. Et je pense que oui, bien sûr, ils disent, ne serait-ce que parce qu'il y a 4 personnes dans la pièce, tu vois, ils sont là en mode, non, évidemment, je ne trahirai jamais Toranaga.
Oui.
Mais en vrai, ça veut pas dire qu'ils pensent pas. Ok, bon. On note qu'il y a Anjin-san qui pourrait être dans notre team si jamais.
Et c'est important ce truc de, on va dire ça parce que il y a d'autres personnes dans la pièce. C'est très important dans tout cet épisode et même particulièrement à l'épisode d'avant aussi. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Yabushige à ce moment-là, mais la petite graine est plantée. Et Blackthorn a planté la petite graine, et même si Yabushige refuse deux fois, on sent que Yabushige, il se remémore ses années lycée, il est là genre ouais, peut-être on voilà,
un dernier coup,
un dernier pour coup la route. Pour la route. Et ouais. Voilà.
Oui, alors je l'avais mentionné au début, mais dans le livre c'est beaucoup plus présent. L'ambition de Yabushige, c'est vraiment de contrôler la première flotte marine, la première marine de guerre du Japon. Donc pour lui c'est vraiment important de, enfin Blackthorn et son bateau, ses canons surtout.
Oui.
C'est vraiment un élément très important. Donc c'est pas anodin que Blackthorn lui propose aussi de repartir avec son bateau et de se battre.
Blackthorn, on a peut-être l'impression qu'il est con, mais il est pas con. Hein. C'est pas la moitié d'un con.
Non, c'est juste qu'il savait pas qu'il fallait se laver.
Mais enfin, c'est très intéressant, je trouve, qu'il se positionne là, et c'est très bien ce qu'il fait en allant le proposer à Yabushige. Et... ouais.
Oui, et en même temps, il a plus de cartes à jouer non plus. Blackthorn, alors c'est pas sûr qu'il meurt.
Eh ben,
quand Toranaga il meurt, mais bon, il a pas envie de vivre à Edo.
J'ai vu une super discussion sur Reddit d'une personne qui demandait. Qui fait partie du plan de Toranaga? On va en reparler à la fin de cet épisode parce que voilà, vous l'avez vu aussi, vous savez que la scène importante elle se passe à la fin et elle va créer plein de discussions. Mais
on y arrive, on a deux petites séquences et après on arrive dans le dur des.
Il y a ce truc de qui est au courant? Qui est au courant du plan? Est-ce que Blackthorn, même dans l'épisode d'avant là, quand Blackthorn il se lève, quand Toranaga présente sa reddition formelle à Saiki, Blackthorn se lève. Et il baragouine en anglais un truc que personne ne comprend, voilà.
Bah il salue Yabushige, il salue Omi.
Il salue deux personnes.
Et après il s'en va et tout le monde l'ignore. Tout le monde est là. Bon.
Et en fait, je pense que Blackthorn il est pas dans le plan parce que Toranaga doit se dire que c'est un élément. Enfin, c'est plus facile de jouer avec que de lui faire faire partie de mon plan, tu vois.
Comme beaucoup de gens, il leur dit pas le plan, mais il les utilise dans son plan.
Et du coup, je trouve ça intéressant. Ouais. Et quand tu dis qu'il a plus de cartes à jouer, Blackthorn, bah, c'est vrai que là il doit se sentir un peu. Le mec, il arrive au Japans. Et il se fait juste parce qu'il y a un gars qui a décidé de se rendre et que le gars qui a décidé de se rendre ne veut pas lui rendre son bateau, bah lui il va crever quoi. Donc bah désolé mais c'est nul.
Ou alors il va rester coincé là sans sa zouze, sans personne qui parle sa langue à part Monsieur Portugais et ses anciens potes.
Désolé
compliqué,
mais
quoi.
Très bon bail. Il mange bien, il boit bien, il a encore.
Bah, est-ce qu'il sera toujours à Tamoto quand Toranaga? Je ne sais pas.
C'est vrai.
Ce qui va advenir de Blackthorn, mais clairement il a pas envie de baisser les bras tout de suite.
Ouais.
Avant d'arriver à la dernière partie essentielle de cet épisode, donc on a deux petites scènes sur lesquelles on va essayer de passer un peu vite, parce que ça fait déjà 1h20.
C'est vrai.
La première, c'est la future construction du quartier des plaisirs.
Banger,
par Lady Jin et Lady Kiku, qui est très émue, Lady Jin, de voir le rêve de sa vie se concrétiser. Et aussi, comme on l'avait dit, une façon pour des courtisanes plus âgées de continuer à vivre dignement. donc des courtisanes plus âgées comme elle, hein. On sait qu'elle a malheureusement été prostituée très jeune, donc elle sait ce que ça fait de grandir et de vieillir dans ces conditions-là. Kikou est plutôt aussi très ému pour elle. Et ouais. Juste à côté, Vlatipa, que quelqu'un d'autre
bonjour
vient consulter son nouveau terrain, son nouveau TX. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais il faut se projeter un peu. Hein.
Oui, oui.
Fazer Martin.
Exposé plein sud. Hein. Alors, ah là... oui. On t'a mis ton ta petite église exposée plein sud, tu verras, il y a des petits renards machin, juste à côté il y a un bordel. Voilà, juste
il y a le quartier des bordels. Mais voilà. Comme ça, tu vois, dimanche on va à la messe, on boit un petit coup, hop, pipeline, après-midi sympa.
Bah on va, alors
désolé, Jésus adorerait.
Moi pour moi c'est un programme de dimanche réussi quand t'es en 1600 au Japon.
On a des opinions variées sur le travail du sexe et c'est un problème féministe très complexe.
Non, mais non, mais pas là-dessus. Mais...
Après, si dans les quartiers des plaisirs, tu vas juste boire du saké et prendre une chicha, mais non, mais tu
vas
au top, tu vois.
À l'église et après tu vas au yukaku, prendre un petit thé, t'es là en mode. Let's
pardon
go. Un petit thé.
Non, on va où?
On va au yukaku.
Au yukaku.
Mais oui, le yukaku, le quartier des plaisirs, mais évidemment. Non, mais en vrai, désolé, enfin, c'est oui. Et non, mais oui, blague à part, par contre, Toranaga, il sait très
still
bien
going strong.
Il fait très... Et en fait, il lui donne son église parce qu'il doit lui donner son église et il veut pas se les mettre à dos. Mais en fait, il y a rien qui l'empêche de lui donner le pire spot possible pour cette église. Et le pire spot, c'est effectivement à côté du quartier des plaisirs. Et désolé, mais move incroyable.
Mais oui, Toranaga, il est tout le temps dans les problèmes. Et je trouve que ça montre que Lady Jean, elle avait vraiment raison et que s'il continue à faire des moves comme ça, c'est qu'il est pas parti pour mourir demain parce que
The Boog is not malade.
T'enregistres pas ta série préférée si tu penses que tu meurs demain, tu vois. Ouais. Pas besoin de lancer le magnétoscope. Bref, vieille ref. Mini scène que j'ai adorée entre Ochiba et Lady Dayoin, à savoir la femme de feu le Taiko, donc cette vieille, cette dame plus âgée qui était rentrée dans les ordres, donc tout dans l'église fait. Après la mort du Taiko, et qui est celle qui a initié Ochiba, qui en a fait une concubine, ouais. Qui l'a droguée pour qu'elle soit fertile quand elle était toute jeune. Enfin bon, il y a une relation complexe entre ces deux femmes. Et on sait qu'Ochiba peut être plutôt cruel, mais là on est à une scène quand même très douce, puisque Lady Dayoin est sur son lit de mort, elle est très vieille, elle va mourir, et Ochiba partage avec elle ses dernières, enfin, écoute ses dernières volontés qui sont...
Arrêtez.
Ouais, calme-toi, Ochiba,
calme-toi. Arrêtez, s'il vous plaît, là.
Elle la supplie vraiment sur son lit de mort, du coup, d'arrêter ses machinations, d'arrêter de se dresser contre Toranaga, de ne pas être aussi cruelle. Et Ochiba a l'air beaucoup plus humaine que dans les autres scènes où on l'a vu, où elle était très en représentation avec Ichido en théâtre, finalement.
Oui.
Là, je trouve qu'elle a l'air, en tout cas, plus sincère. Et puis bon, comme d'hab, on sait jamais combien il y a de personnes qui regardent, mais a priori, là, il y a juste elle et une vieille dame qui va mourir. Donc, il n'y a pas de témoin, elle n'a pas besoin de faire semblant, même si, bon, peut-être que tout le monde joue au théâtre tout le temps. Mais elle a l'air émue. Cela dit, est-ce que ça veut dire qu'elle va baisser les bras ou pas? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette scène qui finalement on l'a très peu vu la Lady Dayoin, donc j'étais contente qu'on ait une fin d'arc pour elle.
Content que tu m'aies refait le déroulé de l'épisode avant parce que je pensais que c'était sa mère qui était morte. Pas du tout. Désolé. Non mais bon, il faut dire les choses.
Tu te souviens de c'est qui le daron d'Ochiba?
Le Taiko. Non.
Celui d'avant le Taiko.
Oui.
Celui qui était cruel et que le père de Mariko
oui,
a assassiné.
Ça, je me souviens du flashback. Oui, le flashback et tout. Ouais. Mais donc non, cette scène à titre perso. Je pense que peut-être ça humanise un petit peu davantage Ochiba, mais en fait, je pense, enfin, il n'y a plus d'antagoniste si Ochiba elle devient gentil, tu vois.
Oui, c'est pas Ichido qui va servir à grand chose. Par contre, peut-être que ça va la faire douter à un moment crucial,
voilà,
tu
ça.
Vois, peut-être au moment de la bagarre ou quoi. Peut-être que ça va semer une graine dans sa tête qui va finir par porter
ça,
un fruit. Je pense que sinon, vraiment, t'as pas besoin de mettre cette scène et.
Non.
Il n'y a même pas besoin de savoir exactement ce qu'elle devient, la vieille dame, tu vois, la Dayoin. Juste être, bon, bah, je sais pas, elle est Osaka. Selon le dénouement, soit elle est vivante, soit elle est morte, mais c'est pas un personnage essentiel. Donc pour moi, il y a.
Peut-être une scène
c'est
importante.
C'est bien d'avoir une preuve que quelqu'un. Et tu vois, l'autre scène qu'on a avec Ochiba, c'est Ichido qui essaye aussi de l'épouser, mais donc un peu de la canaliser.
Ouais.
C'est que les gens se rendent compte de la force, mais un peu. Peut-être un peu incontrôlée qu'elle est en train de. D'avoir et d'incarner quoi.
Ouais mais voilà je pense qu'elle est là en mode elle est peut-être pas en train de voir la vieille dame qui canne et de dire ok vu, je pense qu'il y a un truc quand même dans sa tête qui voilà il y a une forme d'émotion mais rien qui, à mon sens, ne va contre, enfin ne va bouleverser son plan, quoi.
Ok.
Je pense que son plan, il est bien rodé et elle veut son truc et voilà. Mais après, effectivement, je vois peut-être une scène. Voilà, moi, je suis un peu Kubrick, je suis un peu dans la réalisation. Peut-être que épisode final ou épisode 9, genre, elle a l'occasion de tuer Toranaga et elle l'épargne, tu vois. Peut-être. Mmh. Peut-être.
Je suis surprise qu'il n'y ait pas eu un truc, mais ça aurait peut-être été un peu trop littéral pour une série, comme on l'a dit, qui compte sur notre intelligence. Il n'y a pas eu de truc genre ne deviens pas comme ton père, tu vois.
Ah oui.
Parce que son
oui,
père
oui,
était
oui.
très cruel et tout. Peut-être qu'il y aura ce côté de je me rends compte qu'au final, sa mort n'était peut-être pas une mauvaise chose. For the realm, pour le royaume.
Encore une référence à Game of Thrones, ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Speaking of avoir un plan. C'est l'heure, Valentin, je vais
c'est
te laisser
de la scène finale
de décrire cette scène longue qui a fait serrer des dents beaucoup de gens, je pense.
En vrai, enfin, je trouve que c'est une incroyable scène.
Bah
je,
ouais,
je sais pas
c'est,
si
c'est
gens
toute
qui
la...
écoutent,
c'est 8 épisodes
mais...
qui ont été faits pour construire,
ouais.
pour nous amener à cette scène.
Il y a vraiment un truc, tout s'est aligné pour ça et il y a une émotion, il y a des... on va parler de plein de choses.
Let's go.
Donc... 1600, Japon féodal, Eredo.
Avance un peu quand même. John Blackthorn est dans un bateau battu par les eaux.
De tout temps, le Japon. Non, en gros, il y a tout le monde qui sont assis en position.
Toutes les couilles.
Bah, toutes les couilles, bah après.
Désolé, il n'y a pas Fujisama. Hein.
Désolé, mais ouais, bah, c'est un peu la série des couilles. Y a quand
c'est
même,
en non-mixité choisie cette réunion.
Tout le monde est assis en position Seiga, la position du prestige.
Tu m'énerves. Vous n'avez pas la vidéo, mais il me fait des têtes, il est trop fier de lui quand il dit des mots.
Donc tout le monde est assis dans, un bâtiment, quoi, une pièce, quoi. Et ils sont sur les. Mais non, mais désolé, mais
c'est long déjà.
Et face à eux, trône, siège, Yoshi Toranaga.
Oui, le dinosaure de Mario.
Oui, c'est mon moyen même technique à moi, c'est de me rappeler qu'il a le même nom que Yoshi. Et donc effectivement, ils discutent de la reddition et ils discutent du fait que ben ça va se passer comme ça, la reddition.
Toranaga, il est là. Oh, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient pas d'accord. Regardez-moi m'en battre les couilles, voilà. D'accord, pas d'accord, c'est qui le chef? C'est toujours moi. Alors bon.
Il arrive déjà. Alors, on va parler du... Il a une pièce de mobilier très particulière, qui est une sorte de petit siège d'accoudoir. Il a un petit siège sur lequel il peut juste poser son coude, qui n'est pas fait pour accueillir les fesses des gens, mais bien accueillir leurs coudes. Il n'y a pas de nom spécifique, mais voilà, il a un petit tabouret de coude sur lequel il peut se poser parce qu'il est malade.
Bien sûr.
Il est malade. Il arrive porté par son porteur, là. Il a un porteur de gars. Il se pose et il dit à tout le monde, voilà comment ça va se passer. C'est réel, la reddition est bien là. Et à aucun moment, il ne leur fait comprendre qu'il y aurait une part de mensonge ou une part de plan ou de manigance.
Il ne fait pas des clins d'œil, par exemple.
Non, voilà, il ne fait pas des clins d'œil.
Ouais.
Il leur dit que, voilà, vraiment, ça va se
passer. Il ne fait pas des guibets avec les doigts.
Ça va se passer.
Allez, c'est l'heure de la... réédition. Bon.
Il a préparé le formulaire B37. Le formulaire B37, il correspond à quoi? Dans le Japon féodal de l'ère Edo 1600, le formulaire B37, c'est si jamais moi je me rends et que vous voulez vous rendre avec moi, signez le formulaire B37, s'il vous plaît. Donc il fait passer la feuille.
PS, la moitié d'entre vous feront immédiatement
un
seppuku,
voilà.
Ainsi que votre lignée. Allez,
donc, voilà.
C'est la lignée AB.
Donc il fait passer le petit formulaire, encore une fois, qui fait référence à toute cette. Cet amour du Conseil des Régents et par extension un peu de Toranaga, etc., pour l'administratif. D'ailleurs, en parlant de livres et de pages, on n'a pas noté, mais tout au début de l'épisode, quand ils sont en train de faire la route vers Edo, on apprend que Yabushige a un livre dans lequel il écrit et il classe les différents types de morts des gens. Et
incroyable ou pas, il fait des tier listes.
Mais de fou.
En vrai, Yabushige, à notre époque, il serait streamer de fou.
Mais
streamer genre Feldup, tu vois.
Abonnez-vous streamer, sinon je vais chauffer ma mère dans un chaudron.
Tirlis Serial Killer.
Et donc il fait passer ce formulaire, etc. Les gens se regardent, donc le formulaire arrive. Il y a des gens qui commencent à le signer. Il y a aussi des gens qui se regardent en mode est-ce qu'on va vraiment le signer?
Tu signes toi ou pas?
Tu signes, tu
si
signes.
Tu cites, je cite, mais si tu cites pas, je cite pas.
Buntaro.
Ce qui est bien, c'est que tout le monde a un stylo, pas comme au partiel à la fac. Tout le monde est quand même équipé, il y a tout un cérémonial de machin,
bah,
de
stylo
trucs et couleurs. Tout le monde s'est signé, tout le monde a un beau petit sceau, un beau petit initial et tout, ça claque, tu vois. Ma signature, elle est moche du cul.
Bah, ouais, non, moi aussi. Donc le formulaire passe, Buntaro signe le formulaire, Omi signe le formulaire, le formulaire arrive jusqu'à. Vous le connaissez, vous l'aimez bien, on l'aime bien. Il a la meilleure barbe et la meilleure moustache de tout le game et de toute cette série. C'est Hiro Matsu, mon gars sûr.
Je me demandais si t'étais en train de gagner du temps parce que t'avais plus son prénom en disant vous le connaissez, j'étais là à l'arnaque.
J'ai même le nom de l'acteur, c'est Tokuman Ishioka et on va en parler.
Et on l'embrasse.
Alors on l'embrasse parce qu'en vrai il y a eu un super article qui est sorti sur cette scène chez Vulture et on va en parler un petit peu après vous avoir raconté la scène. Donc le formulaire arrive jusqu'à lui et lui, désolé mais il en a vu des choses. Il a âge ressenti 175 ans.
Il est arrivé en cheval et tout, il est tombé de son cheval.
Il est
pas là pour baisser les bras.
Ouais, il est pas là pour baisser les bras. Et donc il redemande quand même 15 fois à Toranaga. Gros, t'es sûr, genre t'es sûr, tu veux te rendre là.
Clique des yeux, c'est un plan.
T'es vraiment sûr. Et vient le moment, il lui dit bah écoute, puisque t'as décidé de te rendre. Et Toranaga, à un moment, il lui dit non mais je veux vraiment me rendre. Et limite, tu lui gueules dessus en mode manque de respect là. Enfin vraiment.
Oui, en fait, je suis ton seigneur.
Ouais.
Il va falloir arrêter de me demander mille fois si quand je dis un truc, c'est un truc.
Tu baisses les yeux, tu restes en chien, et c'est tout quoi. Et donc lui dit.
Alors que le gars, il l'a connu, il était grand comme ça.
Mais oui. Et en plus, il s'est moqué de lui. Il faisait des vannes et tout.
T'es grand comme le caillou du jardin.
Il faisait des vannes sur le fait que Toranaga, quand il était jeune, il n'arrivait pas à décapiter quelqu'un d'un coup sec.
Mais les vannes classiques que tu fais avec ton tonton. Ah ouais, quand t'as pas réussi à décapiter un gars à 12 ans, ouais, ça m'a pris 9 coups et tout, normal quoi.
Et après, tu t'es,
chié
dessus après.
Waouh. Wow.
Je sais pas pourquoi vous écoutez encore ce podcast, hein. Là vraiment, c'est dramatique. Donc, Hiromatsu. En fait, il faut poser un petit peu de contexte aussi. Donc voilà, toute cette relation entre Toranaga et Hiromatsu qu'on nous présente à travers les flashbacks, qu'on nous présente dans les discussions qu'ils ont, etc., elle est super importante parce que en fait c'est des refs, c'est vraiment des frères, non seulement d'armes, c'est des frères spirituels, c'est des frères tu vois, enfin ils sont là depuis le début. Hiromatsu c'est le mec qui a formé Toranaga, c'est le mec qui était avec lui depuis le début et il y a vraiment un truc de c'est plus que la famille quoi, c'est enfin on perçoit cette émotion là et on le perçoit dans cette scène. Et donc Hiromatsu quand il reçoit le formulaire B37, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah si c'est comme ça, c'est beaucoup. Et donc, au début, personne ne le croit. Tout le monde est là en mode, on va baisser d'un ton, c'est pas la peine. C'est pas la peine de sortir le couteau cérémonial. Hiro, non, Hiro pose ce couteau. Et Hiro, il le fait vraiment. En fait, quand il dit qu'il va c'est beaucoup, Toranaga, il lui dit, bah très bien, bah vas-y, fais c'est beaucoup. Parce qu'il doit pousser le délire loin. Et il a pas le droit de dire, en fait, non, c'est faux, machin et tout.
Bah,
il doit y aller. Et donc, bah, Hiromatsu, je sais pas si ça c'était prévu, mais j'imagine que c'était prévu dans le plan. Ou peut-être que Hiromatsu. Ah, c'est vrai qu'il y a une scène dont on n'a pas parlé. Il y a au tout début de l'épisode, il y a un moment où il parle, tu sais, il y a justement donc, Hiromatsu et tout le monde qui parle à Toranaga. Et il y a un moment dans le couloir, quand Toranaga est parti, où je crois Hiromatsu dit à Yabushige ou Buntaro, il lui dit.
Il a un plan.
Ouais, il a un plan. Oui. Sinon, il n'aurait pas envoyé le Father Martin donner des nouvelles de ce qui vient de se passer. Parce qu'il il a dit au prêtre.
Oui, c'est toujours tout le monde qui essaye de deviner. Est-ce qu'on est sur une vraie reddition ou est-ce que, comme d'habitude, Toranaga a un plan, mais il y a un moment où, genre, c'est trop, quoi.
Et donc là, Hiromatsu, je pense qu'à mon avis, c'est soit un plan clair qu'il a défini avec Toranaga, soit c'est tacite et il a deviné les intentions de Toranaga et donc, du coup, il est très fort, Hiromatsu. Ne veut pas signer le formulaire et se fait un seppuku. Il faut savoir que dans la tradition du seppuku, en l'occurrence là il s'agit très précisément, je le dis souvent, mais d'un gyosukai. Le gyosukai c'est le type de seppuku, littéralement, hein, c'est le suicide d'honneur qui était pratiqué, on l'a déjà dit, au Japon féodal, mais également pendant la Seconde Guerre mondiale par certains soldats japonais pour éviter de se rendre, et c'est littéralement ça. Il est pratiqué par le descendant dans la lignée la plus proche, l'aîné, qui là en l'occurrence s'avère être dans la pièce puisque c'est mon petit gars Buntaro.
Buntaro, son mardi, il est vraiment en mode.
Buntaro, il s'est pris un râteau cosmique sur 1000 ans par Mariko.
Il voulait se suicider avec sa zouze et même ça, elle lui a dit non, frère, pas
avec
toi.
Et le soir même, il a même pas eu le temps de manger, de boire du saké et tout. Le soir même, il y a son daron qui lui dit tu prends l'épée, tu me coupes la tête, tu m'assistes. Parce que, bah, effectivement.
Et tout le monde va te regarder, donc fais-le bien.
Ouais,
et fais le pas en neuf.
Fais le pas en. Voilà. Et donc, il y a ce seppuku qui va jusqu'à son terme. Hein, Hiromatsu le fait. C'est d'ailleurs de la série le seppuku le plus visuel qu'on a. On avait déjà eu un à un moment, mais qui n'était pas aussi visuel.
On avait eu justement l'homme que Toranaga n'a pas réussi à décapiter à 12 ans. On l'avait vu faire l'entaille au ventre, mais pas beaucoup plus. Avant ça, on avait eu juste la suggestion du seppuku de Monsieur Je parle mal en réunion et de son bébé, mais. Rien du tout de graphique, et on en avait déjà parlé, mais du coup, réécoutez le podcast sur l'épisode 7, si vous voulez, le point seppuku. Mais il y a une vraie volonté de respecter la pratique, de respecter sa signification et de et cette ce choix de faire monter en tension jusqu'à représenter le seppuku qui a le plus d'impact émotionnel et qui concerne le personnage qu'on connaît le mieux. C'est un vrai choix et je trouve que ça marche très bien parce que du coup c'est une scène évidemment horrible et inoubliable mais dont on comprend tout le poids et si on avait vu des gens s'éventrer à droite à gauche depuis 8 épisodes ce serait pas pareil quoi.
Et ben d'ailleurs j'apprends que le formulaire B37 donc qui dit si vous voulez vous rendre avec moi signez cette feuille etc, c'est un formulaire qui vise à organiser ce qu'on appelle un sakibara. Le sakibara, c'est un type de seppuku, donc de suicide par ouverture de l'abdomen particulier, puisque le sakibara, c'est quand tu seppuku poursuivre ton seigneur. Donc, soit ils acceptent, ils font un sakibara, soit ils refusent et ils font un gyosukai comme Hiromatsu. Et donc, c'est Buntaro qui l'assiste. C'est Buntaro
blanc
qui doit...
bonnet blanc quand même.
Ouais. C'est Buntaro qui doit l'assister. Donc, il y a une longue scène où on le voit se trancher le bide, etc. Et
le regard, eye contact c'est... des acteurs de Hiroyuki Sanada. Et...
C'est incroyable. Je l'ai, regarde. Là... Moi, je l'ai avant toi. Il s'appelle Tokuma Nishioka.
Et Tokuma Nishioka, c'est vraiment incroyable. Et j'ai écouté dans, je crois que c'était dans le Prestige TV podcast sur Shogun, que je vous recommande si vous comprenez l'anglais. Il y a une interview de du coup l'acteur qui joue Hiromatsu qui parle de toute une tradition que moi personnellement je connais moins, de toute une tradition de films de samouraï et de cinéma de samouraï avec des acteurs qui jouent de façon très expressive avec leur visage, un peu comme en héritage du théâtre No dont on avait parlé, qui est surexpressif et où du coup en fait pour lui comme pour Hiroyuki Sanada il y a toute cette culture derrière eux et cet hommage qu'ils sont en train de rendre qui est pas forcément aussi palpable pour un public occidental, tout comme je sais pas, des films français qui rendent hommage à la nouvelle vague, bah on va plus y être sensible que des gens qui ont oui. peu de films français, tu vois. Et moi, je suis pas très film de samouraï, même film moderne de kung-fu et tout, c'est pas trop mon truc. Mais dans ce jeu, dans ce...
Il y a un truc de...
Enfin, il y a vraiment un truc de... C'est l'hérite. C'est comme jouer Shakespeare quand t'es un acteur britannique, tu vois. C'est jouer un grand samouraï qui se fait seppuku pour aider son seigneur. C'est une genre de pierre angulaire du métier d'acteur au Japon. Et du coup, c'est tout un héritage aussi qui se manifeste dans ces jeux de regards et de grimaces qui se passent pendant le seppuku.
Mais il y a un impact de... Alors, il y a effectivement le jeu de grimaces, mais il y a un truc dans les regards. Il y a donc moi, à titre perso, moi, j'écoute beaucoup moins de podcasts qu'Emimi, qui en écoute à peu près 8 heures par épisode de série qu'elle mate. Moi, c'est plus les articles. Et j'ai un article à vous conseiller si jamais vous n'avez pas de problème avec l'anglais. Sur le site Vulture, V-U-L-T-U-R-E.
De toute façon, on vous mettra le lien dans la description.
Tout à fait, vous avez le droit de le lire gratos. Hein. C'est un site sur abonnement, mais la première lecture est gratuite. Donc celui-ci, vous pouvez le lire gratos. Et donc, c'est une interview donc, de l'acteur qui joue Hiromatsu. Et je la trouve incroyable, cette interview, parce qu'il raconte, non seulement il raconte plusieurs choses, il raconte qu'à la base, la scène était écrite pour qu'il n'y ait pas que lui qui se fasse seppuku, mais les 5 personnes devant Toranaga, donc Buntaro, Omi, lui, l'autre vieux et l'autre vieux.
Ça fait des économies sur le casting pour les deux derniers épisodes.
Ouais, mais ils ont décidé finalement, pour renforcer l'impact de cette scène, de limiter le seppuku à uniquement Hiromatsu, qui est vraiment le frère d'armes de Toranaga. Et l'interview de l'acteur qui joue Hiromatsu est incroyable, parce qu'il raconte que lui, ce qu'il a mis dans la zone émotionnelle de cette scène... C'est le fait d'avoir vu les larmes de Sanada, pardon,
Hiroyuki Sanada.
Hiroyuki Sanada, de voir les larmes de cet acteur-là qui montent pendant que lui commettait beaucoup, et ce qui, du coup, lui l'a fait pleurer. Alors que derrière lui, derrière l'acteur qui jouait Hiromatsu, il y avait 30 personnes en tenue de samouraï, qui sont donc des samouraïs de la série. Ces 30 personnes-là étaient en train de pleurer pour la plupart. Et genre, dans l'interview, il raconte qu'il a genre fait pleurer tout le plateau pendant cette scène.
Mais vas-y.
Ils l'ont fait quasiment en une prise. Genre la première scène qu'on voit là, c'est la même prise, c'est la première prise. Genre le seppuku,
c'est bon. La on la garde.
Prise. Ils ont refait des plans de coupe pour avoir différents angles et tout, mais c'est la première prise qui a été qui a marché.
Alors c'est ce que dans 2 heures de perdu ils appellent les fausses anecdotes d'Hollywood, mais
oui,
j'y crois personnellement.
Oui. Alors, mais moi j'y crois.
Je veux vivre dans un monde où les émotions sont réelles et il y a du beau dans ce monde. Et parfois le beau c'est un vieux monsieur qui s'éventre. Bon, voilà.
Et donc même lui, même l'acteur qui joue Hiromatsu, en discutant de la scène avec Hiroyuki Sanada, qui est en plus donc producteur sur la série, donc il a son mot à dire à plein d'égards.
Oui.
Il dit que ce que t'as dit toi Mimi dans notre podcast, que genre tous les trucs se sont alignés, on arrive à ce moment précis, genre c'est
oui,
ce c'est moment, c'est l'aboutissement.
Notre carrière nous ouais. a mené à ces rôles là dans cette production là et tout.
Ouais. Et ben genre là c'était une journée de tournage entière pour cette juste cette scène là. Enfin c'était la dernière scène qui devait tourner et même lui il dit vas-y ouais c'est maintenant c'est le moment et il sent que tout l'a amené à ce moment là et donc voilà il décrit l'atmosphère sur le plateau à ce moment là il parle aussi, je vous avais dit qu'on allait reparler de Fujisama et on, effectivement il parle dans l'interview de Fujisama et il dit que elle a une atmosphère de fou, enfin elle a une aura et une prestance particulière qui donne envie, je cite, de lui faire des câlins.
Oh, mais oui, c'est vrai, j'ai envie qu'elle soit heureuse. Genre, je suis là, on l'a pas vu de l'épisode, comment elle va? Donnez-moi des news, Fujisama, elle va bien, elle a bien mangé, elle a bien dormi. Good, ok. Personne donc, fait pourrir des faisans dans sa maison.
Non.
Elle est satisfaite. Moi, je veux juste un petit plan.
Elle a toujours deux guns.
Elle a deux calibres. Moi, je veux juste un petit plan sur Fuji qui fait la sieste et je suis là, d'accord.
Moi, je veux un plan sur Fuji qui remonte les calibres.
Ah ouais.
Non, en vrai, moi, je suis un peu
en mode John Wick.
Ouais, mais genre, j'ai un peu envie. Bref, et donc Hiromatsu RIP. Hiromatsu seppuku, Hiromatsu décapité également. On imagine, comme dans les autres épisodes, que sa tête va être mise dans une petite boîte dans le rite funéraire adéquat. Mais scène très forte parce que
ça semble prouver que Toranaga est sérieux, qu'il n'y a pas de plan secret, que oui,
et bah
il
faut
se rendre. Mais non, il reçoit Mariko, qu'est-ce qui se passe?
Mais parce que c'est fou. En fait, même avant cette scène, je pense que on a l'impression que c'est sérieux et que le surrender, la reddition est réelle. Mais il a pas le choix, Toranaga. Il est tellement deep dedans.
Bien sûr.
Il peut pas lui dire non. Je peux pas lui dire.
Et Hiromatsu, à quel point il le sait, ça, à la limite, c'est peut-être ce sur quoi on peut débattre. Mais il sait que, en tout cas, si Toranaga a un plan, son plan marchera pas si les gens pensent qu'il a un plan. Donc,
Justement, l'acteur qui joue Hiromatsu, dans la fameuse interview de Vulture dont je vous parle, parle justement du fait que cette scène a été tournée avec aussi en tête eux pendant qu'ils l'ont écrite. C'est pas du tout un spoil ou quoi. Hein. Mais que dans la pièce, pendant que Hiromatsu commet seppuku, il y a sûrement un espion d'Ishido.
Oui, et ce qui n'est pas assez ce que j'ai. Ils en parlent aussi dans le Prestige TV podcast et ils déplorent, et je suis assez d'accord que c'est peut-être pas assez clair.
Ouais.
On sait que Toranaga a des espions, mais on a un peu l'impression qu'il est plus fort que tout le monde en espion. Et Ishido, il a un peu l'air incompétent. Donc on n'a pas cette tension de. Il peut y avoir des yeux et des oreilles partout. On l'avait un petit peu dans le Willow World avec cette histoire de Mariko et Blackthorn ils peuvent pas passer la nuit ensemble juste parce que au bordel ce qui se passe au bordel reste au bordel, genre bien sûr qu'il y a des gens qui regardent.
Oui.
Mais je trouve que moi je me dis pas ah oui il y a en plus cette couche de ça se trouve il y a des espions, je me dis juste en fait quoi qu'il arrive ça va être rapporté oui à Ishido mais c'est normal, enfin c'est un gros truc politique qui est en train d'arriver tu vois donc
je vois il doit aller jusqu'au bout et on sent que lui n'a pas envie d'aller. Toranaga n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Hiromatsu n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, mais il va quand même jusqu'au bout.
Tout le monde va jusqu'au bout, et mais on serre un peu les dents.
Buntaro, la journée de merde, il va rentrer, il va éclater une bouteille de saké entière. Et donc dernière scène de l'épisode, Toranaga voit Mariko et c'est là qu'on comprend qu'en fait tout ça, ça fait partie d'un plan. Et
c'est Crimson Sky.
Il y a cette scène incroyable où depuis le début de l'épisode, on voit Toranaga qui tousse, qui blablabla. À la fin de l'épisode, il s'est levé de son lit, mais genre The Elder Scrolls 6 est sorti quoi, tu vois.
Qu'il a acheté du Fervex. Non mais c'est juste, c'est bon quoi, une petite sieste et de l'hydratation.
Il s'est levé de son lit en mode waouh, comme ça vraiment. Il s'est et après il va parler à Mariko et lui faire comprendre et nous faire comprendre aussi par extension à nous spectateurs qu'en fait il y a un plan.
Il est temps pour elle de jouer son rôle.
Tout à fait.
Est-ce qu'elle est prête? Bien sûr, elle est prête. Elle vient d'envoyer chier Buntaro. She was born ready, comme
quelle
on dit.
Quelle fin d'épisode, mais en vrai.
Rappelons qu'elle sait se bagarrer. Et non, la toute dernière scène, du coup, c'est Blackthorn qui est sur le navire de Yabushige. Donc, visiblement, leur plan. Ils vont faire ces séditions. Donc, quand Yabushige disait non, bien sûr que non.
Non.
Il a attendu jusqu'au dernier moment. Il a signé le papier qui dit je me suicide. Et du coup, là, il est là. Oui, bon, on va faire le truc parce que de façon alternative, je me suicide. Et Yabushige, c'est un kiffeur de la life. Il a pas envie de mourir fondamentalement. Il a dit, oh, moi
je le comprends.
Je veux être chef de la marine et seigneur de mon fief et on est content quoi. Et il y a une invitée surprise qui montre que Toranaga savait très bien que Blackthorn et Yabushige allaient s'allier puisqu'il leur envoie Mariko.
Mariko, tout à fait. Il leur envoie Mariko.
Et on sait pas ce qu'il l'envoie faire, mais il leur envoie Mariko. Donc on a Mariko, Yabushige et Blackthorn unis bah, sur en fait, un bateau, bien décidés à tenter leur coup. Bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Sinon, il enverrait pas Mariko.
Et il y a cette scène où en plus Yabushige arrive à un moment et il parle à Black Thorn et on voit Yabushige veut lui faire comprendre toi, moi, allié, content, et avec des mots, parce que lui parle pas anglais et Black Thorn parle pas japonais.
Non, Yabushige, il a pas fait l'effort d'apprendre la langue japonaise.
Et pile au moment où on voit qu'ils galèrent à se faire, enfin, ils comprennent quand même l'idée que voilà, on est potes quoi. Mais pile au moment où on les voit galérer avec la barrière de la langue et tout, Mariko-sama sur le bateau. Et je pense que Toranaga l'envoie aussi pour d'autres choses.
Nous verrons. Ce bateau, à l'image d'une certaine série de médiéval fantasy, il y a peut-être une scène culte qui clôt une saison de sexe dans une cabine de bateau.
J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que l'ancre qu'on va lever.
Allez, c'est la fin de ce débrief de Shogun épisode 8, sauf si tu avais des choses à rajouter.
Ouais, tout à fait. On va... Parce que j'ai pas eu le temps d'en parler dans cet épisode et ça me saoule de faire des recherches pour rien, donc je vais vous en parler, je suis désolé.
Let's go.
On voit souvent dans... Je suis désolé, vraiment.
C'est les boîtes.
Je hijack la fin de cet épisode.
Mais il n'y a pas de problème. Si je te pose la question, c'est que je suis honnête.
On voit souvent, depuis le début de la série, on voit, vous savez, donc ils n'ont pas les Uber, ils n'ont pas les taxis, ils n'ont pas les voitures. Donc les gens se transportent dans des boîtes.
Les palanquins, on a dit.
Les palanquins, on a dit tout à fait en français. Mais je me suis renseigné davantage sur les palanquins.
Ça t'a intrigué cette histoire de boîte à gens?
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les palanquins qu'on utilise pour le transport des personnes sont également les palanquins qu'on utilise pour le transport des défunts. Et donc, ils font brûler le palanquin dans lequel il y a Nabunaga. J'ai eu son nom.
Nagakado.
Putain, merde. Pourquoi je dis Nabunaga?
Il s'appelle Nabu, je pense, c'est son prénom. Ah. Je vais le retrouver, mais vas-y.
Donc le fils de Toranaga, bref, est également transporté dans un palanquin, qui est un type de palanquin différent, mais quand même un palanquin qui sert à transporter...
Non, c'est Yoshi Nagakado.
D'accord. À transporter les défunts. Et donc je me suis renseigné. Il existe différents types de palanquins, donc ces boîtes dans lesquelles on transporte les gens. Celles qui sont utilisées là dans la série pour transporter notamment les gens de Toranaga et les gens haut placés. Notamment...
Et les femmes, notamment Lady Ochiba, oui. Et bah, quand Toranaga s'exfiltre voilà, d'Osaka, c'est en se faisant passer pour sa femme.
Particulièrement celle-ci. Attendez, il y a Siri qui est en train de me parler là, parce que j'ai dit ok, et du coup...
Faut que tu désactives ça, hein, c'est pas possible.
Non mais c'est horrible là, je me fais espionner, bref. Et donc, ce palanquin, il y en a de deux types. Le palanquin des bourgeois, donc en l'occurrence Toranaga et sa clique se transportent là-dedans. Ce sont des norimono, ce sont des palanquins très coûteux et qui, en fait, il y a une forme de... Plus le palanquin est luxueux, plus la personne à l'intérieur va être...
Bien sûr, c'est estimée, comme un carrosse, quoi.
Voilà, c'est comme un carrosse. Et si tu n'avais pas l'argent ou les matériaux pour te construire un norimono, tu pouvais utiliser ce qu'on appelle un kago, qui est un palanquin un peu plus bon marché, qui est juste en fibre de bambou tressée. Voilà. J'ai appris un truc que moi, je trouve fascinant. Et donc, je vais vous le partager parce que je suis sûr que vous allez trouver ça fascinant aussi. Il y a une réglementation légale à ce moment-là au Japon féodal
sur la vitesse des palanquins qui ne peuvent pas aller à plus de 80 km/h sur les départementales.
La hauteur des poutres du palanquin. Et on ne construit pas les poutres de palanquin n'importe comment. Donc vous savez, le palanquin, c'est cette boîte. Et les gens qui le transportent se mettent les poutres sous le bras.
Okay.
En gros, c'est ce qui
les traverses pour le porter. Quoi. C'est
voilà,
les poignées.
Voilà, en gros, les poignées. Mais on appelle ça les poutres. La structure, donc déjà, c'est une poutre à structure creuse. Donc c'est un peu comme les meubles à Ikea. Voilà, tu vois,
on va faire léger, quoi.
Voilà. Mais surtout, la hauteur à laquelle la poutre est construite et posée sur le palanquin, déjà il faut que la hauteur soit en accord avec celle de gauche et celle de droite évidemment, mais pour ne pas être en infraction avec la loi qui régit la hauteur des poutres de norimono,
ils avaient que ça à foutre, hein.
La hauteur de la poutre dépendait du rang de l'occupant dans la boîte.
Ah, pour pas que t'arrives et t'as un palanquin plus haut que celui d'à côté, alors que t'es juste un oblion nul, tu vois.
Il fallait que juste en voyant le palanquin et en voyant tu saches à qui t'as affaire. Et tu saches à qui t'as affaire dans la boîte. Parce que nous sommes dans une société patriarcale, même au Japon en 1600, il y a des choses qui ne changent pas. La loi des poutres, sur la hauteur des poutres, on ne s'appliquait qu'aux hommes nobles. Donc en fait, si c'était une femme noble dedans, on la met à hauteur femme.
Ouais. C'est bas, quoi.
C'est juste hauteur femme. Par contre, si c'est un homme, on met à hauteur en fonction de son rang social. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit passage sur les norimono versus les kago. Ce qu'on voit depuis le début de la série, ce sont tout le temps des norimono. Et donc maintenant, vous prêterez attention à la hauteur des poutres. Voilà.
En vrai, ça me pose deux... Je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est quand même utilisé globalement pour des trajets pas très longs. En fait, j'ai l'impression que c'est la version la moins pratique du monde. C'est-à-dire que je pense que je préférais marcher qu'être transporté dans une boîte en bois par quatre
gars.
Non,
je pense
que c'est pas très confortable. Après, je sais que pour les femmes, enfin, même pour les hommes, mais les chaussures et tout n'étaient pas forcément praticables. Comment on marche quand on est une femme noble, on voit bien qu'elles avancent à tout petit pas en croisant les pieds et tout,
oui,
c'est vachement mis en avant. Donc j'entends qu'elles pouvaient pas faire des randos, tu vois. Mais pourquoi pas de roues ? J'ai l'impression qu'on avait déjà maîtrisé la roue et je suis là, pourquoi quatre gars qui le portent ? Genre je préférais être en tuk-tuk. Je comprends pourquoi pas de chevaux, parce qu'ils ont pas la place au Japon d'avoir beaucoup de bétail et d'élevage de chevaux. Mais je comprends pas pourquoi t'as pas un genre de truc à roue, à
parce
minima,
que...
est-ce que c'est pas plus conforme ? Et c'est peut-être juste pour dire, regardez, je peux payer 4 gars.
Bah, en fait,
voilà,
il y a un rapport où les palanquins, et donc particulièrement là, bon, les palanquins diffèrent en fonction de les palanquins indiens.
T'es sur palanquin.jp
Là, je suis sur palanquin.info.fr. mais en vrai, donc les palanquins diffèrent en fonction des pays, Chine, Inde, Japon, Corée, etc. On a même des palanquins en Afrique, tu vois, il y a des palanquins de plein de pays différents et de plein de cultures différentes. En l'occurrence au Japon, le palanquin il présente un avantage certain, c'est que la plupart des terrains sont escarpés, sont mouillés, boueux, etc. Donc en fait c'est plus facile que les roues à transporter dans les chemins escarpés. Okay. Et surtout il y a ce rapport où comme le palanquin sert à transporter des personnes qui sont nobles, qui ont un statut haut placé, il y a aussi le nombre de porteurs est important.
Ouais.
La coutume c'est 2, 4, 6 ou 8. Tu vois un palanquin avec les poutres tout en haut arriver avec 8 porteurs, tu sais que dedans c'est Macron quoi. Enfin, à un moment donné, tu sais quoi. Voilà.
C'est pas Manuel Valls quoi.
C'est, ouais, Manuel Valls, lui, à mon avis, il a un porteur, c'est.
Tous.
Bref. Voilà.
Merci pour ce point palanquin, c'était passionnant.
Écoutez, n'hésitez pas, là il nous reste deux épisodes. Et en plus, comme le dernier se passe en live,
on va avoir le temps.
Si jamais, moi j'ai le temps, là j'ai rendu ma grosse enquête que je devais faire. Si jamais. Pour l'épisode 9 ou 10, il y a des points sur l'histoire ou les ustensiles ou la signalétique des panneaux ou la météo ou les tremblements de terre. Comment on prévient les tremblements de terre à ce moment-là ? S'il y a des choses que vous voulez savoir.
Alors moi, j'ai un thème pour toi.
Okay.
J'aimerais savoir comment ça se passait les toilettes à l'ère Edo.
Eh ben,
parce que je ne sais pas.
On fera un point toilette parce que c'est vrai qu'il y a eu encore...
Tout leur truc de maison en papier
ouais.
machin, je suis là. Ok, mais une cabane au fond du jardin de cailloux ça se passe ?
On fera un point toilette dans l'épisode suivant. Et si vous avez effectivement des remarques, des questions, n'hésitez pas à envoyer un DM soit à Mimi, soit à moi pour nous demander. Et
vous savez quoi, je vais vous mettre une boîte à questions sur Instagram.
Allez.
Demandez Ask Nodius anything about le Japon de l'ère Edo.
Et je ferai un jingle caca. Parce que
non, tu feras un jingle culture G.
Tu viens de me demander de faire un jingle toilette, donc je vais faire un jingle toilette.
Mais pas un jingle caca.
Non, un jingle.
Genre, t'as pas le droit de mettre des proutes dedans.
Non, mais ça va.
Sauf s'il y a beaucoup de réserves.
J'ai pas 8 ans. Okay. Non, ce sera un jingle toilette. Ce sera un jingle toilette. Voilà.
Comment on va aux toilettes au Japon féodal. Bref. Merci beaucoup, Nodius, de m'avoir accompagné pour ce débrief de nouveau.
Mais merci à toi.
Deux petites heures, quel plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez Nodius sur Twitch tous les lundis matins, à peu près, à 8h30.
Ouais.
Et sur Instagram pour lui poser des questions sur le Japon féodal. Retrouvez-moi sur Instagram, dans le Fab et Mimi Show, en podcast, sur Patreon, bref, partout. Et retrouvez-nous en live pour le débrief de l'épisode 10, le 24 avril, au soir, sur ma chaîne Twitch. Des bisous.
Des bisous, tout le monde.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF, et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.